Bonjour et bienvenue au I One Club, le podcast BD qui n'a pas pris une raclée face aux All Blacks à la dernière Coupe du Monde, lui au moins. Je suis Sébastien Naïko, j'ai le plaisir d'être interviewé par le maître de cérémonie, Wan Haipie, lui-même, et ça devrait être un moment tout à fait intéressant et enrichissant.
Bah bonsoir Sébastien, c'est un plaisir de te recevoir ce soir dans l'émission. Tu es la personne qui se cache derrière le blog Le Comptoir de la BD, qui est un blog hébergé sur la plateforme du Monde. Tu as aussi, il y a quelques mois maintenant, mais c'est pas si loin que ça, hein, quand même, publié un état des lieux de la BD numérique aux éditions Numérique Livre. Je sens qu'il y a un jeu de mots avec le smiley au milieu.
Oui, enfin c'est numéro. Le smiley, je sais pas trop à quoi il sert à vrai dire, hein. Mais c'est oui Numérique Livre je vais y arriver, qui est une maison d'édition franco-québécoise de langue française. Voilà.
D'accord. Et à côté de ça, c'est peut-être un peu moins connu, parce que tu le sous-entends à plusieurs endroits que tu as été scénariste de BD. J'ai dû faire pas mal de recherches pour réussir à retrouver quel était le nom sous lequel tu avais scénarisé tes bandes dessinées pour savoir ce que tu avais fait. Et donc, tu as fait un manfra, comme on dit, hein, qui s'appelle Onset.
Ouais.
Qui s'appelle Onset,
oui.
Donc autour du monde.
Onset, oui, absolument.
Onset, ok.
Qui a la particularité d'être la première bande dessinée, et aujourd'hui normalement la première, parce qu'il y en a eu une autre qui est sortie depuis lors, qui relève plus d'ailleurs de la bande dessinée amateur plutôt que de la... Enfin voilà, mais qui a la particularité donc d'être la première BD sur le handball aux humanoïdes associés dans une collection qui s'appelle Shogun, qui était une très belle aventure, notamment justement au niveau des particularités propres à l'écriture de manga qui diffèrent à certains égards de la franco-belge. Donc voilà.
On va commencer par parler de On Seven, donc, vu que c'est comme ça que ça doit se prononcer. J'avais un doute sur si c'était On Set ou On Seven. Je me suis dit, On Set, ça fait un jeu de mots aussi, c'est rigolo.
Ouais, moi j'ai toujours dit On Seven, à vrai dire, mais on devrait peut-être dire On Set, parce que bon, les anglicismes, on en a marre. En plus, le handball est un sport qui n'est pas du tout anglais, c'est un sport allemand, donc... Ça devrait presque s'appeler Hansibon, mais bon, c'est beaucoup moins facile à dire. Je t'écoute.
Tu as publié ça en août 2007, donc aux Humanoïdes Associés. Comment est-ce qu'on se retrouve à se lancer, bon, en tant que scénariste, déjà à la base, et surtout sur un manfra qui est quand même un genre très particulier et très casse-gueule quand même, j'ai l'impression que ça me donne.
Bah, casse-gueule, oui et non, parce que c'était tout l'intérêt de l'expérience, c'est qu'on était là pour défricher, donc le casse-gueule, on y avait droit quelque part. C'était même le petit frisson supplémentaire par rapport à un projet en format 48 planches couleur traditionnel. Comment j'y suis arrivé? Ben, c'est somme toute assez simple. Je suis de double formation communication et journalisme. Je suis quelqu'un qui aime la bande dessinée depuis très très longtemps et le handball depuis un petit peu moins longtemps, mais presque aussi longtemps finalement, puisque je suis un fan de la première heure de l'équipe de France de handball de Barcelone 92, donc ça ne nous rajeunit pas. Le handball et la BD, c'était deux passions distinctes. Et le hasard a voulu que, en rencontrant Guillaume Dorizon, qui est donc l'éditeur qui a développé la collection Shogun aux Humanoïdes Associés, je lui ai fait la proposition de plusieurs scénarios à développer en format manga, et il a retenu celui sur le handball, voilà, qui donc est devenu On Seven. Et bah, c'était une très 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 belle histoire. Puisque déjà, il m'a mis en relation avec un dessinateur espagnol, Albert Carreras Guardia, qui a particulièrement bien compris ce que je voulais faire, qui a donné beaucoup de cœur et a été très, très, très efficace. Voilà, et on a comme ça pu faire 3 albums, ce qui est quand même plutôt bien, surtout pour du format manga, qui nous a permis aussi d'aller un petit peu loin, enfin, en tout cas, de développer notre propos Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut saluer parce que c'est pas forcément simple de tomber 150 planches par album, ce qu'on a réussi à faire et voilà, on s'est vraiment régalé à faire ça.
Parce qu'il y a quand même, il y a moins d'un an entre deux tomes sur les 157 planches, c'est un rythme violent pour.
Oui, alors après, il faut bien comprendre que le format et la construction d'une planche en manga, c'est pas du tout la même chose que sur du format traditionnel. Il y a une écriture qui essaye de mettre entre guillemets un peu de côté les décors pour pas qu'il y ait des choses trop compliquées à faire en termes de, par exemple, de perspective, de construction du dessin.
Il y avait peu de public dans les matchs, c'est ça?
Non, il y avait du public, mais après c'est une question de mise en scène. C'est vraiment, il y a un jeu dans l'écriture après. Et puis le manga a vraiment ceci de particulier, c'est qu'il se concentre vraiment littéralement sur les personnages. Donc l'écriture de Hand Seven à cet égard était très intéressante parce que on avait évidemment 7 joueurs pour commencer comme toute équipe de handball, et donc ça faisait déjà 7 personnages à découvrir et à suivre. Ce qui était déjà relativement dense. Et ce qui permettait aussi d'alterner dans le dessin et de construire des échanges entre personnages qui pouvaient vraiment être dynamiques. Moi, ça a été vraiment une expérience assez géniale. Parce que voilà, il a fallu caractériser évidemment les personnages, définir l'intrigue, reprendre évidemment des codes propres à ce qu'on appelle le neketsu, c'est-à-dire cette forme d'écriture assez japonaise qui est donc raconter l'accomplissement d'un personnage à travers une discipline qui peut être sportive, qui peut être une pratique artisanale, qui peut être une pratique d'un jeu, qui peut être même scolaire, ça peut être la musique, enfin etc etc. Il y a des centaines d'exemples, hein, ça va de d'Olivier Tom à je sais pas moi Akita Tenno Japan sur le un jeune japonais qui veut devenir le meilleur boulanger du monde. Ça va jusqu'à bah évidemment Dragon Ball où le héros va comme ça évoluer et devenir le héros le plus fort, encore le plus fort, encore le plus fort, etc. Et Hand Seven, c'était donc sur une évolution qui s'apparentait au Neketsu, mais avec évidemment des particularités qui étaient typiquement occidentales, c'est-à-dire la manière de gérer la défaite, par exemple. Parce que au Japon, dans le Neketsu, en règle générale, le héros ne perd pas. Là, mon idée, c'était au contraire de prendre un petit peu à rebours ça et de savoir justement tirer les enseignements de la défaite. Il y avait aussi le respect de l'adversaire. Il y a eu comme ça vraiment un travail de mise en abîme un peu du manga traditionnel de sport, avec centré sur le handball qui est et d'ailleurs les derniers résultats de l'équipe de France mirifiques ont salué quelque peu, j'ai envie de dire ma BD, enfin, je dis ça vraiment en toute modestie, mais ce que je veux dire par là c'est que Hand Seven est sorti alors que l'équipe de France n'avait pas encore été championne olympique et n'avait pas cumulé comme elle vient de le faire 4 titres majeurs internationaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très je suis très content de ce que cette équipe ait gagné, et je suis très content aussi que ma BD ait pu sortir alors qu'elle n'était même pas encore à ce niveau-là qui était déjà extraordinaire d'ailleurs. Mais bon,
d'ailleurs, voilà, bref. Il y a eu justement que 3 tomes. Tu as bouclé ton scénario ou ça s'est arrêté?
Oui.
C'était vraiment
alors,
bouclé.
Le troisième tome a été bouclé en sachant qu'on n'allait pas pouvoir faire la suite.
D'accord. Donc tu as eu la chance de savoir que tu allais devoir t'arrêter, quoi.
Oui. Donc j'avais la consigne de terminer l'histoire et qu'elle ait une issue. C'est pas une fin, c'est plutôt une issue dans la mesure où la fin est ouverte. Comme on est dans un neketsu, en réalité, c'est typiquement le genre d'histoire qu'on peut étirer, qu'on peut vraiment très très largement étirer et longtemps. Et voilà, il suffit de voir, Slam Dunk par exemple, en format manga. Voilà, il y avait vraiment. Enfin, la matière n'était pas très difficile à trouver. Après, non, l'éditeur, ce qui s'est passé avec les humanoïdes associés, c'est que Shogun, c'était une excellente idée. Seulement, les humanoïdes associés ont eu complètement raison de développer cette collection. Le problème, c'est que ils ont essuyé les plâtres à tout point de vue, à la fois en termes de modèle économique, à la fois en termes d'audience, à la fois en termes de vente, et également en termes de qualité, qui était assez inégale. Hein. C'est pas faire injure que de simplement porter ce constat. Et les humanoïdes associés n'avaient pas forcément, et n'a pas d'ailleurs toujours pas d'ailleurs, les reins suffisants pour supporter suffisamment ce type de projet.
Ouais, le fait de justement des résultats de l'équipe de France, ça aurait pas été une opportunité pour essayer de peut-être relancer la série, peut-être tenter un autre format, essayer d'avoir un produit d'appel derrière.
Alors très honnêtement, j'ai porté des suggestions à l'éditeur. Après, c'est une question de priorité, c'est-à-dire que ils avaient des titres qui marchaient mieux sur ce format-là, qui d'ailleurs continuent aujourd'hui. Hein. C'est les titres en l'occurrence de Hanson Chen, alias Shonen. Donc, ils avaient des priorités. Hand Seven n'en faisait pas partie. Ils ont quand même tenu à défendre Hand Seven et à le présenter dans leur catalogue, notamment pour les droits étrangers. Ce qui fait que, chose amusante, Hand Seven est vendu. A été vendu aux Philippines et je possède les albums en philippin de Hand Seven, ça c'est rigolo. Donc c'est quand même sympa de se dire que notre œuvre, enfin que ma petite BD a fait traversé un peu le monde, c'est sympathique. Et puis après, c'est une question de moyens. Je sais qu'il y a des touches qui ont été prises, mais c'est ça pour le coup, c'était pas mon boulot à moi. C'était aussi au boulot de l'éditeur de trouver des idées. Moi, j'en ai suggéré quelques-unes. Si elles n'ont pas abouti, c'est peut-être parce qu'il y a eu des réponses négatives. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'efforts fournis. J'en sais rien, sincèrement, j'en sais rien. Maintenant, ce que je me dis, c'est que c'était une belle expérience. Et que voilà, là où moi, j'ai eu une très agréable surprise, c'est que j'ai eu le plaisir de rencontrer certains joueurs internationaux de handball à qui j'ai présenté la BD. Et qui la connaissait. Et ça, c'est, j'avoue, un peu un rêve de gosse que j'ai touché du doigt, quoi. J'ai eu le plaisir d'offrir les albums à Jackson Richardson, et pour moi, ça a été une manière de le remercier pour les heures qu'il m'a fait passer de bonheur à regarder l'équipe de France jouer avec lui en pivot, et ces moments un peu magiques, quoi.
Mmh, oui, effectivement, ça doit être assez génial. Par contre, après ça, niveau bande dessinée en tant que scénariste, on t'a plus revu.
C'est normal.
Tu as laissé tomber, t'es passé à autre chose ?
Non, c'est que il s'est passé plein de choses entre temps. C'est que d'une part, j'ai quand même un travail qui me prend déjà beaucoup de temps, 40 heures par semaine. J'ai une vie de famille avec deux enfants bas âge dont j'ai quand même le souci. De m'occuper aux côtés de ma femme. Et puis, après, c'est une question d'opportunité, d'envie. Pour la petite histoire, avec Albert, donc le dessinateur de Hand Seven, les humanoïdes associés ont essayé à un moment, nous ont fait faire des tests sur des projets qui n'ont pas abouti. Ils rencontraient par ailleurs certaines difficultés économiques. Donc là, ça plus ça, c'était pas simple. Moi, j'étais pas particulièrement dans le besoin, c'est-à-dire que c'est vrai, toujours une question de priorité. Albert, lui, avait besoin de travailler, il avait besoin de faire des piges, c'est un illustrateur professionnel, il a besoin de gagner sa vie par son métier. Et il a eu d'autres opportunités. Moi, j'ai sincèrement pas cherché à travailler avec d'autres dessinateurs depuis lors parce que j'avais juste pas le temps. J'étais vraiment très très pris par mes autres occupations, et le temps est vite passé, mes enfants grandissent, ceci dit, ça m'a pas empêché de faire un livre en effet sur la BD numérique, de lancer mon blog qui me prend déjà pas mal de temps depuis presque 3 ans. Ça...
Pour revenir sur ton travail avec Alberto, le dessinateur de Hand Seven.
Albert.
Ah ouais, c'est un Espagnol, c'est bien ça, si j'ai bien suivi. Tu te retrouvais à devoir donc scénariser une bande dessinée en utilisant des codes asiatiques avec un dessinateur espagnol sans parler la même langue que lui. Donc j'imagine qu'en plus, il y avait un traducteur entre vous deux.
Oui.
Comment est-ce que tu concevais ton scénario ? Est-ce que c'était vraiment du case par case, planche par planche défini ?
Oui.
Ouais.
Oui.
Tu étais vraiment là-dedans? T'as pas essayé de donner plus de liberté au découpage, la méthode
Alors,
un peu à la Stan Lee
très honnêtement, là d'expérience et pour en avoir discuté avec un nombre conséquent d'auteurs, il n'y a pas vraiment de règles sur l'écriture. Je vais donner des exemples. Si on prend Philippe Thom, par exemple, qui scénarise Le Petit Spirou, Soda et qui a scénarisé aussi Spirou longtemps, lui, il est carrément à dessiner la planche et à dessiner les personnages, même de manière sommaire, mais il les positionne déjà, il crée déjà une dynamique et le dessinateur, quand il reçoit le scénario, il a un découpage qui est vraiment avancé. Notre ami Raoul Covin a une écriture qui est un petit peu similaire, où il aime bien aussi présenter les personnages, même si c'est très 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 sommaire, mais pour lui c'est important de se figurer comme ça le scénario. On a à l'inverse des scénaristes qui eux vont donner un certain nombre de cases, mais ne vont pas fournir le découpage, ils vont juste dire voilà, dans telle page, on part de ça, on part de ce point A, on va vers le point B. On a par exemple un cliffhanger en bas de page et charge au dessinateur d'illustrer littéralement et de s'approprier le scénario. C'est ce que fait par exemple Diaz-Canales pour Black Sad. Lui, il va écrire le scénario sous forme de nouvelle. Et ensuite, Guarnido, lui, il va carrément tout redécouper pour étirer le scénario sur un album. Voilà, on a vraiment des cas de figure extrêmement différents. Moi, ma manière de fonctionner, c'est que j'ai besoin de me rendre compte de la place du texte dans la page, j'ai besoin de me rendre compte de la dynamique, j'ai besoin de rendre compte du découpage. Je dessine un petit peu aussi, donc ça c'est peut-être aussi une déformation liée à ça. Et donc, je fais des scénarios qui sont très, très, très approfondis, qui sont très détaillés. Voilà. Maintenant, la liberté du dessinateur, elle est évidemment... après, c'est une question de dialogue, c'est une question de distance, mais elle va se situer, évidemment, dans la possibilité de scinder des cases, dans la possibilité de respecter... d'insuffler une autre dynamique. Et puis, au niveau du dessin, il peut être force de proposition. Après, ça, c'est voilà, de la même manière que lui ne va pas réécrire les dialogues à ma place, moi je vais pas refaire les dessins à la sienne. C'était dans cet exercice-là en tout cas, dans l'histoire de Round 7, ça a été assez carré. En plus, comme on parlait pas la même langue, il faut se rendre compte que donc on avait un traducteur, il fallait que le traducteur, il ait un seul scénario qui soit entre guillemets inamovible parce que toute retouche dans le scénario, ça voulait dire retraduction derrière, perte de temps. Donc il fallait vraiment que ça soit carré. En plus, c'était à coup de 150 planches. Donc moi, je découpais chacune des planches sur Word. Il fallait vraiment que tout soit très précis pour lui, qu'il ait que à reprendre ce que je lui envoie pour aller au plus vite, pour être le plus efficace possible, pour se concentrer sur le dessin, pour être sûr qu'il comprend bien les dialogues et qu'il comprend bien l'évolution de l'histoire. Et voilà. Ça demande vraiment d'être précis, d'utiliser des termes précis, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la traduction. J'ai eu des surprises assez rigolotes, par exemple, très peu en l'occurrence, hein, parce que j'ai jamais vraiment eu de problème avec Albert. Il comprenait vraiment bien ce que je voulais, et Eduardo Alpuente, qui est à la fois son agent et le traducteur, a fait un excellent boulot de traduction. Et donc un exemple amusant, c'est que une fois dans l'histoire, à un moment, un des personnages va prendre son scooter. Et avant de prendre son scooter, il montre les clés du scooter à une copine qui doit prendre avec lui. Et moi, j'ai marqué donc qu'il prend les clés. Et donc, au lieu de dessiner des clés de scooter, parce qu'il n'avait pas compris que c'était lié au scooter, il a dessiné une clé de 12.
D'accord.
Mais comme, alors ça tombait bien, parce que comme le gars était dans son garage, c'était pas choquant de le voir avec une clé à la main. C'était un peu, on se disait, tiens, pourquoi est-ce qu'il prend une clé? Mais c'était pas un problème. Il y avait vraiment pas de problème de cohérence. Et j'ai jamais, honnêtement, sur 350 planches, 300 en plus, même 4, plus de 400, je dis une bêtise, si j'ai fait 10 demandes de correction à Albert et à Eduardo, c'est vraiment le maximum, quoi. 10 demandes sur, je sais pas, on va dire à 4, 5 cases par planche, ça dépendait, hein, mais Grosso modo, ouais, allez, on va dire à 4 vignettes par planche, 10, ça fait pas beaucoup au final, hein. C'est que vraiment ça tournait, quoi.
Tu t'étais imposé pour avoir le rythme manga un nombre maximum de cases par planche. Tu t'étais, enfin, est-ce que tu as eu vraiment une
Ah
adaptation
oui,
à faire pour être
bien sûr.
dans le rythme à l'asiatique, quoi?
Bah, bien sûr, déjà, on fonctionne par chapitre. Donc, on fonctionne par chapitre de 29 planches. De la même manière, l'éditeur demandait à avoir un synopsis par chapitre. Parce qu'il y avait à l'époque, les humanoïdes associés avaient carrément créé un magazine de prépublication qui s'appelait Shogun. Donc, il y avait vraiment une volonté de pousser les séries exactement à la manière de Jump. Pour dire, voilà, vous pouvez les lire dans le magazine et après vous allez les avoir en album. Donc il y avait vraiment, vraiment une volonté de faire comme les Japonais, hein. C'était très proche. Donc pour l'écriture, moi j'étais, enfin on avait des plannings. Donc c'était plutôt moi qui étais en retard davantage qu'Albert parce que comme j'ai un travail à côté, ben il fallait quand même que je tombe mes planches et par moment je prenais du retard. Et je tombais 30 planches tous les mois. Donc grosso modo, ben on faisait un album en combien de temps? En 6 mois, 7 mois. Donc voilà, c'était dense, mais en même temps, on n'était pas sur un scénario d'une complexité affolante. On n'était pas en train de dire, c'était pas, j'étais pas en train de faire un scénario la Christopher Nolan quoi, il y avait pas plusieurs couches de réalité, c'était pas un thriller, il y avait enfin voilà, là on était plutôt dans l'humour, on était dans la décontraction. Voilà, c'est ça roule quoi, c'est un dessin dynamique, voilà ce que je peux répondre.
Donc tu as fini ça en 2008, tu
Ouais,
lances
ou 2009, je sais plus. Ouais,
Ouais,
pardon,
2008,
vas-y.
le dernier. Tu lances le comptoir de la BD en tout début 2009.
Oui.
C'était parce que tu étais en manque de BD. Il fallait que tu te relances dedans.
En fait, c'est parce que dans mon métier, je suis un professionnel de la communication, je suis attaché de presse et je passe mon temps à écrire pour d'autres gens, à servir même de prête-nom pour par exemple, des tribunes, des avis d'experts, pour des communiqués de presse, pour des livres blancs, enfin, pour tout un panel de support de communication, de matériel de communication, comme on dit. Et j'ai été journaliste il y a quelques années, il y a 6 ans, 7 ans, notamment dans la presse BD d'ailleurs. J'ai bossé très peu, mais quand même pour Bodeuil. J'ai bossé pour longtemps pour Anime Land, pour le Virus Manga.
Ça devait être à l'époque où je disais Beaudeuil, il y a très longtemps, au
Bah,
début.
c'était en 2003, à peu près 2002-2003.
Ouais, je devais encore le
J'ai
dire.
fait. Voilà, je. Voilà, et puis, donc j'étais journaliste, mais bon, c'était très difficile, hein, on va pas se voiler la face. C'est un métier qui était déjà précaire et ça s'est pas arrangé, malheureusement. Donc, moi, je faisais partie de ceux qui bossaient un peu et qui crevaient la dalle beaucoup. Et puis, voilà, donc pourquoi je parle de ça? Oui, alors en fait, tout simplement, donc le journalisme, ça reste un métier de cœur, même si c'est un métier qui paye pas. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis un lecteur de blogs culturels, plutôt d'ailleurs sur les. Du côté des grands sites médias type Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Échos, etc. Enfin bon voilà. Et en lisant Le Monde régulièrement en ligne, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas de blogueurs sur la BD. Et j'ai contacté un blogueur. Je vais un peu vite, hein, il y a des étapes, mais c'est pas très important. J'ai contacté un blogueur qui s'appelle Pierre Cerisier, qui fait un blog qui s'appelle Le Monde des séries.
Que j'aime beaucoup d'ailleurs,
Voilà,
et qu'un très bon podcast.
absolument. Merci, merci pour lui. Donc podcast auquel je participe. Allons-y pour la publicité. Et Donc Pierre, enfin on s'est trouvé assez vite des affinités. Lui était très intéressé par l'écriture BD, donc par mon expérience sur Round 7, et moi j'étais assez intéressé par savoir justement les modes de fonctionnement des blogs au monde. pour peut-être, même si j'avais pas conscience de ça, de ce que ça représentait comme travail, même si je ne savais sincèrement pas si j'arriverais à tenir le rythme, même si, j'étais dans l'expectative, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je créerais pas un blog sur la BD, sur l'actualité BD, sur les conseils, avec les conseils avisés de Pierre. Dans une certaine mesure, je comptais aussi un peu sur son parrainage et son, enfin, pas son parrainage en termes de dire au monde il faut absolument le promouvoir parce que c'est génial, etc. Pas du tout. Là-dessus, on a été assez clairs tous les deux, on s'est bien entendu sur ce point. Moi, je suis toujours parti du principe que je voulais qu'on sanctionne la qualité. Donc, si le monde décidait que mon blog méritait d'être mis en avant, c'est parce qu'ils trouvaient que le contenu était bien. Pas uniquement parce que j'étais le copain de quelqu'un qui pouvait éventuellement me servir de passe-droit. Ça ne m'intéressait pas du tout.
Okay.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce préambule avec Pierre, c'était en octobre, novembre, décembre 2008. En fait, j'ai longuement réfléchi au nom du blog, à ma ligne éditoriale. Il a fallu que je réactive évidemment des canaux que j'avais quand j'étais journaliste, mais qui s'étaient évidemment un peu taris. Donc, j'ai notamment contacté les gens de Dupuis, qui m'ont tout de suite apporté leur soutien. Il y a eu les gens des Humano, forcément, que je connaissais, qui m'ont aussi soutenu. Enfin voilà, il y a eu comme ça. J'ai pu compter sur certains anciens canaux pour me relancer. Comme journaliste entre guillemets, parce que je suis pas du tout journaliste, hein, je suis blogueur et c'est vraiment différent. Et voilà. Et puis j'ai lancé le comptoir de la BD. Au début, j'avais 10 lecteurs qui étaient 10 amis, ma famille, etc. Voilà. Et puis de fil en aiguille, le monde a vu mon travail. Je sais que Pierre gentiment leur demandait leur avis, mais je précise vraiment, j'insiste. Ne poussait pas, hein, il n'était pas là pour dire il faut le soutenir, etc. Il essayait juste de leur dire regardez ce qu'il fait et faites-vous une opinion. Et ils m'ont contacté assez vite, la rédaction du Monde.fr, pour me proposer de devenir plus visible sur le site. Voilà.
Comment ça se passe, le fait d'être plus visible? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est payé? Est-ce que c'est juste parce que, en gros, ils veulent mettre en avant un des blogs qui leur plaisent? J'ai aucune idée, hein. C'est vraiment des questions que je me pose autour de ça.
Les deux, en fait. C'est-à-dire que, non, en fait, il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux de visibilité dans les blogs du monde. Le premier niveau, c'est d'être perdu dans le magma des blogs. Donc, c'est, parce que ça représente, mais il y a peut-être des centaines de blogs au monde.fr qui sont d'ailleurs vraisemblablement pas alimentés ou quasiment pas. Cette centaine de blogs, moi j'ai commencé là, mais très vite, au bout de quelques mois, ils m'ont proposé de me rencontrer et surtout de me passer en blog ce qu'ils appellent les blogs sélection du monde.fr. C'est un espace dédié donc aux blogueurs qui est sur la page, au milieu de la page du monde.fr, littéralement au milieu, et où les billets tournent. Voilà, de oui. Manière comment dire, ouais, enfin voilà, de manière vraiment cyclique. Et là, le blog a commencé à connaître une petite audience sympathique. Où je suis passé en quelques mois de 10 à 500, 600 visiteurs de moyenne par jour, parfois un peu plus. C'était vraiment en fonction des sujets. Moi, c'était une expérience très intéressante parce que ça me permettait de voir comment réagissait le public, quel est le meilleur moment pour poster, quel est les cycles de rotation. Qu'est-ce que ça, combien de fois mon blog passait sur le monde, enfin, etc., etc. Il y avait donc comme ça plusieurs critères. Évidemment, chose fondamentale, le retour des lecteurs sur le contenu du blog. Donc tout ce qui a pu être, évidemment, critique, observation, dialogue, gestion de communauté, etc., etc. Ça c'est quelque chose de très, 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 très intéressant. Et puis, pour revenir sur la hiérarchisation des blogs, il y a un niveau des blogs qui s'appelle les blogs invités. Qui sont en haut à droite, qui sont donc hébergés par lemonde.fr et dont les auteurs sont sous contrat d'édition et donc rémunérés.
D'accord.
Voilà, et je fais désormais partie depuis, ça fait 2 ans maintenant, des blogs invités par Le Monde, j'ai eu le plaisir d'avoir une promotion au mérite. Voilà, et puis il se trouve que ça a l'air de leur convenir puisque j'y suis encore et que voilà.
Donc à partir de là, par contre, j'imagine que ça t'impose un nombre de publications, une certaine régularité derrière.
On va dire contractuellement parlant, en effet, on est engagé à avoir une fréquence régulière sur le blog. Après, cette fréquence, elle est. Enfin, je ne sais plus maintenant parce que ça fait quelques moments que j'ai signé mon contrat. Mais grosso modo, cette fréquence, si ma mémoire est bonne, elle était de mettre un billet au moins tous les 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça.
D'accord.
Donc, c'est pas non plus. Voilà, j'ai pas le couteau sous la gorge. Après, le but du jeu, c'est. Moi, je suis rémunéré en fonction de l'audience de mon blog. Donc, plus j'ai de visiteurs, plus je touche d'argent. Donc c'est dans mon intérêt aussi d'avoir des fréquentations régulières pour fidéliser un lectorat pour à la fin me dire que j'ai rentabilisé quelque part mon travail de blogueur, même si sérieusement je fais pas ce blog pour l'argent.
Oui, non, puis ça me rassure qu'il n'y ait pas cette force, parce que ça m'aurait embêté de ne plus voir Guillaume Long, qui n'est pas très présent ces derniers temps sur son blog.
Ouais.
Je ne sais pas si tu le lis, boire et à manger.
Non seulement je le lis, mais on est copains, donc oui.
Que je trouve fantastique. Enfin, il y a quelques blogs comme ça sur Le Monde que je suis, donc il y a le monde des séries, forcément l'actu en patate, à boire et à manger, et le tien, donc le comptoir de la BD. Et c'est vrai qu'en général... la qualité y est, en tout cas, et la régularité aussi. Ça reste un peu difficile parfois, parce que c'est vrai que beaucoup de régularité sur du blog rend, quand on essaie de suivre toute l'actualité, les choses pas forcément évidentes, et on est obligé de survoler pas mal les articles. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'articles comme ça que je suis obligé de survoler, parce qu'au bout d'un moment, j'ai mes flux RSS qui sont blindés, j'en peux plus. C'est l'horreur.
Ouais, mais alors moi, enfin, je comprends tout à fait, hein, sincèrement. En même temps, je sais très bien que j'aurai pas le même lectorat en fonction des sujets. Donc, souvent, les titres sont explicites, le lecteur sait de quelle œuvre on va lui parler ou de quelle question. Donc je sais que ça va pas attirer les mêmes personnes.
La question, est-ce qu'un article sur Tintin marche mieux qu'un article sur Spirou?
Alors là, c'est pas si simple que ça. On peut pas faire une équation comme ça, paradoxalement. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a certains billets qui sont mis en avant par lemonde.fr. C'est-à-dire qu'ils passent, ils sont sortis de l'espace blog pour entrer dans l'espace news. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est le temps d'exposition qui est beaucoup plus important. La deuxième, c'est que lorsque il y a cette extraction, les billets sont aussi diffusés après sur des plateformes d'information générale comme les Google News, comme AOL.fr, comme les News SFR, ce qui fait que d'un seul coup, les statistiques explosent littéralement et le nombre de lecteurs qui arrivent de manière, par d'autres biais que par uniquement le site du Monde. Donc ça, c'est... Ça, en termes de statistiques, c'est très impressionnant. Voilà. Moi, je n'ai aucun contrôle sur la désignation des billets qui vont être mis en avant. Je n'ai vraiment, mais aucun contrôle. Sur quasiment 850 billets, ça m'est arrivé une seule fois de demander au Monde de mettre un billet en particulier en avant. Ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont même pas répondu. J'ai pas insisté. Donc ça mérite d'être clair. Hein.
C'est bien, franchement.
Voilà.
C'est...
Donc après, il y a effectivement des sujets où je sais que il risque d'y avoir un peu plus de monde. Il y a des sujets dont je sais que j'aurai beaucoup de réactions. Il y a des sujets dont je peux faire des estimations, mais sincèrement, j'ai pas de règles, quoi. Le billet qui a le mieux marché sur mon blog, c'est un billet qui malheureusement était lié à une activité dramatique qui a été la catastrophe au Japon.
Ouais.
Et j'ai fait un billet sur le collectif Tsunami qui a réalisé un ouvrage et une vente aux enchères d'illustrations créées pour l'occasion en réaction à la catastrophe. Et ce billet-là a été mis mais en première page du monde.fr parmi dans le blog spécial sur l'actualité japonaise. Donc c'était vraiment. J'ai fait quasi 85 000 visiteurs en une semaine. Il est resté en tête du monde pendant une semaine. Donc ça a été un carton total. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un cas exceptionnel.
Oui.
C'est vraiment un cas exceptionnel.
J'ai vu que tu avais des lectures très 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 variées. Tu lis un gros paquet de choses dans tous les styles très différents. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne toujours. Tu passes du manga au franco-belge, un petit peu pas trop comics, j'ai l'impression.
Non, parce que, en tout cas, pas aux comics de super-héros.
Ouais.
Parce que, d'abord parce que j'ai entre guillemets pas de canaux d'approvisionnement. Ça peut paraître bizarre de dire les choses comme ça, mais c'est-à-dire que je connais pas l'environnement comics. Je connais quelques auteurs américains qu'on peut apparenter à du comics. On va dire, on peut parler de Mignola, on peut parler de voilà de Miller, on peut parler de certaines œuvres d'Alan Moore qu'il a fait aux États-Unis, mais on est plus dans de l'offre auteur. Là, je viens de lire le Habibi de Craig Thompson chez Casterman. C'est du comics, mais c'est voilà, on est plus dans la bande dessinée d'auteur. On est voilà dans les super-héros, je suis complètement largué. J'ai trop de lacunes pour me hasarder. Je vais en parler de manière périphérique à travers les adaptations, ça oui. Et puis une fois tous les mois au moins dans les coups de cœur BD, j'ai Edmond Touriol qui lui
Oui.
est un spécialiste qui lui va cibler sur en règle générale un comics ou un livre qui a trait aux comics et au moins je suis sûr que tous les mois on en parlera. Après ça peut paraître peu. Mais j'assume quoi. C'est pas voilà. Il y a d'autres thématiques que sur lesquelles je vais pas parce que j'estime que j'ai pas les compétences. La bande dessinée érotique, par exemple.
Oui, et puis c'est vrai que de toute façon, la production est tellement dense que c'est difficile de lire de tout dans tous les genres.
Absolument, absolument.
Ouais.
Puis de toute façon, dès que je m'exprime sur le comics, il y a quelques très gros connaisseurs qui viennent tout de suite réagir et me renvoyer dans mes 22. Ils ont raison. Voilà, de la même manière, il y a beaucoup de la BD alternative qui passe entre mes fourches caudines parce que c'est pareil, il y a une production qui est extrêmement importante, extrêmement variée, vers laquelle moi je suis pas forcément porté en termes de goût. Voilà, donc bon, après, il y a 4 500 nouveautés par an, je dois lire 600 ou 700 albums par an. Dans les nouveautés, ce qui est déjà énorme. Voilà, je prétends pas l'exhaustivité, bien heureusement.
Oui, puis surtout, enfin moi je le vois aussi, hein, dès qu'on tombe sur des spécialistes, j'ai l'impression de m'y connaître assez bien en bande dessinée américaine, et pourtant, dès que je dis un truc, très très souvent, je me fais ramener pour dire, eh oui, mais attention, tel petit détail n'est pas vrai, parce que c'est vrai qu'il y a des très très grands fans et des très très gros spécialistes, et
Absolument.
c'est pas évident. Tu as essayé de faire plusieurs séries d'articles sur le blog. Alors tu en avais fait une sur, par exemple, Bacabédé, que tu avais commencé. Alors moi j'ai interviewé Arnaud Torrisson.
Que j'ai
Que tu as,
terminé
oui, tu,
même.
ah oui, que tu as terminé, oui, maintenant c'est vrai, effectivement,
Ouais,
entre-temps tu peux
ouais.
terminer. Je l'ai lu en plus, ma mémoire est pas terrible, faut croire.
Non, non, mais j'ai mis longtemps pour le terminer, mais je l'ai terminé.
Donc moi j'avais justement entre la période creuse. J'avais interviewé Arnaud Thorisson justement dans une des émissions. Donc il y avait eu ça. Tu essayes de trouver des sortes de séries pour fidéliser aussi, parce que tu trouves que c'est intéressant de s'intéresser sur plusieurs articles à un même sujet. Dans les séries, il y a aussi tous les mois, donc il y a les coups de cœur.
Oui.
Et là, tu as commencé une série sur tout ce qui est bande dessinée les offres de bande dessinée numérique.
Professionnelle, ouais.
Ouais, professionnelle.
Ouais, parce que j'avais fait des portraits de blogueurs, blogueurs BD. Bon, il y en a des centaines, peut-être même des milliers. Donc là, c'est pareil. Ça demande le problème des entretiens, c'est que ça me demande du temps que j'ai pas forcément. Donc même sur la bande dessinée numérique pro. Enfin, mon objectif, c'était de faire un entretien par semaine, mais je le tiens pas du tout. Là, j'ai complètement tout explosé. Donc voilà, le prochain entretien devrait être avec Manolo Sanctis. Mais voilà, ça demande un travail de fond que de dérochage, de recopiage, de correction, etc. Que j'ai pas nécessairement ou qui va s'étaler sur une période qui, moi, me semblera trop importante. Donc, voilà. Pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment de... Enfin, effectivement, il m'arrive dans mon blog d'avoir une approche et une écriture avec des thématiques, avec des rendez-vous, mais c'est plus des envies, des coups de cœur. Dans le cas de Bac à BD, par exemple, c'est justement Edmond Touriol dont je parlais, qui a été scénariste ou qui est scénariste pour Arnaud, qui nous a mis en relation. Et voilà. Et puis, moi, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas interviewer sur plusieurs rendez-vous un jeune éditeur qui se lance. Voilà, c'était un exemple. Il y aurait pu en avoir d'autres. Hein. Après, c'est simplement pour illustrer, pour donner corps à une réalité, quoi. Mais je suis pas complètement satisfait de ce que j'ai fait là, parce que c'est le problème de l'entretien, c'est que c'est pas nécessaire. C'est des interviews qui sont écrites. Alors, ça a un avantage, c'est que la personne peut pas dire qu'elle a pas dit ce qu'elle a écrit si on lui fait un reproche. Mais c'est un désavantage, c'est qu'on sent trop que c'est lissé et que derrière il y a quand même une recherche de plus de communication davantage que de transmission d'informations. Il y a une volonté de rassurer. Lorsqu'on fait une interview de vive voix, on peut pousser la personne dans ses retranchements, on peut lui extirper entre guillemets des informations qui l'envelopperaient pas nécessairement comme il peut le faire par écrit. Ça, c'est vraiment la limite du genre, la limite de l'exercice. J'en ai conscience, je crois l'avoir dit sur mon blog d'ailleurs. Donc il faut prendre ça avec un peu de mesure, quoi. Voilà. Après, il y a aussi ce constat que moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller faire des sujets. C'était vraiment mon leitmotiv à l'initiative du blog, c'est d'aller faire des sujets que je ne lis pas ailleurs. Donc, à tort ou à raison, c'est pas, je pourrais pas être rédacteur en chef nécessairement à la place du rédacteur en chef pour paraphraser It's No Good, mais voilà, moi, mon sentiment, il est là, c'est que j'ai envie de faire des sujets que j'ai pas lus ailleurs, voilà. Et c'est pour ça, parfois, il y a des simples interrogations je vais faire des billets qui vont être des réactions à des commentaires sur le blog qui d'un seul coup vont m'amener une réflexion, voilà, voilà, et on avance comme ça, quoi. C'est intéressant, je trouve.
J'ai vu qu'il y avait pas mal, effectivement, il y a pas mal de moments où tu poses une question, en fait, tu poses rapidement un constat et où le billet sur le blog est vraiment là pour mettre en avant une interrogation, un questionnement peut-être sur un sujet autour de la BD que tu n'arrives pas vraiment à saisir parce que bah, tu as un point de vue peut-être aussi décalé autour de ça.
Absolument.
Et c'est vrai que c'est assez... moi, je trouve assez intéressant d'avoir ce côté... au fait, les questions parfois semblent un peu naïves, mais je trouve toujours très intéressant de les poser parce que on se rend compte dans les réponses que la question n'était pas si naïve qu'elle en avait l'air.
Alors, je mentirais si je disais que je sais à l'avance le type de réaction que je vais obtenir, ce qui n'est pas du tout le cas. bien souvent, j'écris enfin, je développe en écrivant, donc c'est presque presque du premier jet. On est, voilà, un billet, moi, par exemple, c'est un peu prétentieux de m'autociter, mais on va faire comme si on n'entendait rien. J'avais fait un billet sur qu'est-ce qu'un dessin moche. Ça peut paraître une question particulièrement naïve. Tout le monde aura des exemples à citer, peu charitables d'ailleurs. Mais la vérité, c'est que c'est pas si simple que ça de dire ce que c'est qu'un dessin moche. Est-ce que c'est un dessin qui est kitsch? Mais dans ces cas-là, bon, il y a certaines bandes dessinées de mauvais goût qui sont peut-être moches, mais qui nous disent quelque chose qu'elles pourraient pas dire si elles étaient bien dessinées, par exemple. Donc, il y a vraiment des interrogations, quoi. Il y a vraiment, en effet, on peut partir d'une idée reçue et la creuser. Mais moi, si j'ai appelé le blog le comptoir de la BD, c'est précisément parce que j'invite les gens à venir s'accouder de manière conviviale, de venir trinquer et de venir échanger exactement comme dans un bar, exactement comme la fonction sociale d'un bar, en tout cas dans le temps, c'est un peu comme ça. Et c'est comme ça encore pardon, beaucoup dans les pays anglo-saxons, pour y avoir vécu et avoir fréquenté quelques pubs anglais ou irlandais. Voilà, il y a cette fonction-là sociale. Je voulais que ça se retrouve dans le nom du blog, d'où le comptoir et d'où aussi ma volonté quasi systématique d'appeler au dialogue. Voilà. Parfois, je vais faire de la provocation. Parfois, je vais dire des choses sachant pertinemment qu'elles sont incomplètes parce que je sais que des lecteurs vont me compléter. Il faut aussi laisser cette marge-là. Je suis pas là pour systématiquement dire moi je sais, taisez-vous, écoutez, je vous délivre la bonne parole. C'est pas du tout mon propos, au contraire. Moi je suis dans l'interrogation parce que la bande dessinée, comme c'est une matière vivante, il y a énormément de choses que j'ignore. J'en suis très content parce que ça me permet justement de les explorer, de me questionner. Il y a énormément de séries que j'ai jamais lues, même des choses très classiques, et je me dis ben voilà, c'est l'occasion de me mettre au défi, c'est l'occasion de me faire violence et de pas voilà, de toujours être sur le qui-vive et toujours toujours être attentif, quoi.
Justement, ces questionnements, ça fait l'habile transition que voilà. Tu t'es lancé dedans avec ton livre numérique, donc État des lieux de la BD numérique. J'avoue
Ouais.
aussi que je ne l'ai pas lu.
D'accord.
Dans lequel tu t'intéresses aux enjeux et perspectives. Je me fie vraiment à la présentation et à ce que je dis dessus, hein,
Ouais.
de la BD numérique. Comment est-ce que tu en es? Alors, le sujet de la BD numérique, c'est un vrai marronnier actuellement, hein, surtout les sites qui parlent de bande dessinée. Comment est-ce que tu en es venu à te dire, tiens, je vais sortir ce livre-là, je vais faire. Tu es plus dans l'état des lieux que dans l'essai? Est-ce que tu es vraiment dans le questionnement? Quelle
Alors,
approche tu as là-dedans?
bah, je vais pas te dire le livre dans l'interview, en
Oui,
l'occurrence,
bien sûr.
non, mais pour te répondre, très simplement, la bande dessinée numérique ou la bande dessinée numérisée, qui est son volet commercial aujourd'hui, c'est-à-dire le portage de BD papier sur un écran. Moi, j'appelle ça la bande dessinée numérisée. Le terme est en train de s'imposer. Chez les acteurs. Donc, la bande dessinée numérique, moi, je m'y intéresse depuis assez longtemps, mais de manière parcellaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la bande dessinée numérique, elle est protéiforme, et moi, elle m'intéresse parce que je l'ai vue passer dans le jeu vidéo, par exemple. Elle
Oui.
m'intéresse parce que je l'ai vue passer en me servant de Windows, et que le wizard dans Windows, il a un langage qui s'apparente à la bande dessinée. C'est un personnage, qui est dans un cadre et qui s'exprime dans des bulles. C'est pas anodin. Le rapport, moi, quand j'étais journaliste, je travaillais donc, je faisais beaucoup d'articles qui étaient des articles transversaux sur les adaptations de BD en dessin animé, sur le rapport aux jeux vidéo et la création graphique, sur les écoles d'art et les enseignements pluridisciplinaires, sur enfin un certain nombre de sujets qui me permettaient d'embrasser ce qui devient commun aujourd'hui, c'est-à-dire les problématiques transmédia, cross-média, plurimédia, qui me passionnent. J'ai travaillé dans le jeu vidéo, j'ai fait de la BD, j'ai écrit des bouquins. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui suit justement de ces différentes plateformes, de ces différents terminaux, qui est produit du contenu pour plein de supports et sous plein de formats différents. Ça m'intéresse beaucoup. Et quand la bande dessinée numérique, en fait, a commencé à être plus visible, et puis avec surtout des initiatives qui d'un seul coup m'ont paru assez extraordinaires, comme ce que fait Balak sur ce qu'il a fini par appeler le Turbo Média. Voilà, typiquement, là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Parallèlement, je me suis retrouvé comme je me suis mis à en parler assez tôt, hein, les premiers sujets sur la BD numérique, ça doit être au printemps 2009, donc quelques mois après, à peine après le lancement du blog. J'ai apporté une réflexion à des problématiques de droit. J'ai apporté une réflexion et un dialogue avec justement le Snack BD, avec Angoulême, avec un certain nombre d'acteurs dans ce milieu naissant. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé à être quelqu'un identifié comme connaisseur de cette matière nouvelle, de ce marché émergent. Voilà, et donc c'est dans cette logique-là que un jour le directeur de collection de Numérique Livre, Lorenzo Socavo, que je connais par ailleurs parce que je m'intéresse pas qu'à la BD numérique, je m'intéresse aussi aux livres numériques, à l'émergence des nouveaux modes de lecture, à la dématérialisation des contenus scripturaux, enfin, etc., etc. Et Lorenzo, lisant mon blog, ayant lu justement mes billets, ayant vu que je commençais à faire autorité sur le sujet, m'a dit, tiens, je crée une collection sur le livre numérique, est-ce que tu voudrais pas faire le volet BD numérique? Et voilà, et bah, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Ça a été assez rapide, hein, parce que la demande est arrivée fin d'année 2010. La rédaction a eu lieu en janvier, février, mars, et la publication en avril. Comme c'est du format numérique, il n'y a pas de délai de fabrication, il n'y
Oui,
a pas
ça va
de,
très
voilà.
vite.
Ça peut aller très très vite. D'ailleurs, comme c'est une matière vraiment, un environnement qui évolue énormément, ça se prête aussi à être réactualisé régulièrement. Donc je pense, bon, après on verra si j'ai le temps et l'énergie et surtout si je m'y retrouve à tout point de vue, mais je pense que j'en ferai une suite, peut-être pas, je sais, peut-être avec le même éditeur, peut-être pas, j'en sais rien encore, mais voilà, il y a énormément à dire aujourd'hui sur la BD numérique,
Tiens,
c'est,
d'ailleurs, en parlant
voilà.
on va aller plus précisément sur la BD numérisée,
Ouais.
tu as un point de vue sur les modèles qui sont en train de se mettre en place petit à petit, les tentatives de lutter contre l'invasion, là, surtout Amazon en ce moment qui a sorti l'arme lourde il y a peu. L'invasion Apple qui a bien commencé, mais qui, je pense, va un peu trop limiter les éditeurs français. On aime bien mettre des poitrines dénudées dans nos bandes dessinées. Il me semble que chez Apple, ça ne leur convient pas. Qu'est-ce que tu penses des modèles qui sont en train de se mettre en place à l'heure actuelle, d'un point de vue tarifaire et puis plateforme offre de façon générale?
Bah, je pense qu'il n'y a rien qui a montré sa pertinence économique pour l'instant, hein. Je pense que, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est à l'équilibre. Voilà, c'est-à-dire l'exploitation numérique stricto sensu ne permet évidemment pas de rentabiliser à la fois la technologie, à la fois la production, à la fois les efforts de distribution, éventuellement les efforts de communication quand il y en a. C'est compliqué quand même, hein. On est sur un marché de niche, on est sur un marché qui est à peine émergent, il n'y a quasiment pas d'argent. Voilà, c'est. Alors, pour répondre précisément à ta question, je pense que les modèles économiques aujourd'hui, ils sont forcément. Et ça, c'est un constat qui se fait partout dans la gestion de contenu en ligne aujourd'hui, hein. Mais ils se font de manière. Comment dire, ils se font nécessairement pluriels. Ça, 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 ça va passer par du transmédia, ça va passer par de la déclinaison papier, ça va passer par de la vente de contenu privilégié exclusif avec les gestionnaires de tuyaux, hein, Orange, SFR, etc., qui sont déjà en demande, hein, qui sont déjà en recherche de contenu spécifique, original, inattendu. Voilà. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant? J'en sais rien. Est-ce que il faut pas adosser la BD numérique à un environnement transmédia ou à s'appuyer sur des grosses licences, c'est-à-dire faire la BD numérique de Titeuf ou de 13 ou de ce que tu veux? Je pense que ça serait pas con, dans le sens où pour créer une pratique et un usage, c'est beaucoup plus facile de mon point de vue à faire quand on part d'un univers qui est déjà désiré et qui en lui-même peut inciter à l'acte d'achat. Voilà. Après, qui c'est qu'on fait payer? Il y a toujours quelqu'un qui doit payer dans la chaîne, donc. Voilà, c'est est-ce que c'est le diffuseur, est-ce que c'est la publicité, est-ce que c'est un mix, voilà.
Est-ce que t'as pas l'impression que on se retrouve avec vraiment une sorte de parallèle qui est en train de se mettre en place avec l'industrie de la musique numérique, où il a fallu avoir le support, donc c'est les iPods, hein, principalement, ouais, et les boutiques qui sont arrivées. Donc là, on commence à voir les tablettes qui arrivent, donc iPad en tête. Mm-hmm. Là, il y a Amazon donc, qui vient de sortir le Kindle Fire, qui a l'air d'être une offre...
aux États-Unis, hein.
Oui, mais bon, qui ont commencé à ouvrir leur boutique française. Par exemple, j'ai été surpris en allant sur le site d'Amazon de voir Portugal pour Kindle à 9,90€.
Ouais, mais alors voilà.
Moi, ça m'a.
Alors, pour le coup, s'ils en vendent un, je serais surpris. Hein.
Bah, ça me surprend quand même parce que c'est vrai que là, pour le coup, par rapport au prix du livre papier. Voilà, est-ce que on ne devrait pas réussir à arriver plus comme les micro-paiements qui marchent beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on achète le single pour la musique et se retrouver avec le micro-paiement à acheter un petit épisode, etc. Enfin, c'est ce que Scott McCloud imaginait dans il y a quelques années maintenant.
Ouais.
J'ai oublié le nom du livre sur la bande dessinée numérique qu'il a écrit, qui est introuvable d'ailleurs maintenant, il me semble.
Je sais plus, je ne l'ai pas lu, hein, j'avoue. Il n'y a pas eu beaucoup d'ouvrages pourtant sur la BD numérique, mais celui-là, je ne l'ai pas lu.
Si tu arrives à le trouver, franchement, il est encore, de façon assez surprenante, alors qu'il a presque 10 ans maintenant, il est encore assez proche de l'actualité. On voit qu'il y a...
Oui, mais ça ne m'étonne pas. Et puis, McCloud, il s'exprime encore régulièrement sur la question sur son blog, par exemple. Donc, on peut se mettre à jour. Pour réagir, par ailleurs, en fait... aujourd'hui, je suis un petit peu perplexe sur la BD numérique. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout qu'on va être face à un phénomène comme ce qui s'est passé dans la musique. Je ne crois pas. Je l'étends au livre, enfin au livre, à la fiction, au livre non illustratif. En fait, la langue nous protège. C'est un grand paradoxe, mais je pense que ça restera vrai encore un bon moment. C'est que par exemple la BD franco-belge ne sera pas piratée dans la mesure où les Anglais ou les Américains par exemple ne parlent pas français et ils ne feront pas l'effort de traduire. Ça, j'y crois pas du tout. Je crois pas qu'il y aura du scan trad de BD franco-belge comme il en existe pour le manga, oui, ou pour le comics évidemment, qui est déjà en anglais évidemment. Non, je pense qu'il y a plus à craindre sur effectivement les contenus beaucoup mieux adapté aux écrans, comme déjà d'ores et déjà le Kindle en noir et blanc et gris, c'est typiquement le format manga par exemple.
Oui.
Voilà, il existe déjà des mangas qui sont visibles sur Kindle, mais j'ose même pas imaginer l'expérience de lire Portugal sur le Kindle. C'est un non-sens total.
Oui.
Les couleurs sont tellement magnifiques. Et puis voilà, c'est pas un livre qui est fait pour être lu sur un écran. Il y en a qui le sont.
Pourtant, le Portugal, c'est comme ça qu'il a été diffusé en premier. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu la première fois.
Ah oui, mais alors attention.
Et c'est vrai que tel que je l'ai lu, au bout de quelques pages du bouquin, j'ai fait, je l'achèterai. Parce qu'il va falloir que je le voie au niveau des couleurs.
Oui, sauf que tu t'es acquitté d'aucun prix puisqu'il était mis à disposition gratuitement sur 8 Comics. Mais là, en l'occurrence, non, moi, effectivement, si on doit être sur un site de prépublication gratuit qui se paye par la pub pour promouvoir les albums, pourquoi pas? Par exemple, pour parler de ma paroisse, si je puis dire, Le Monde a prépublié le dernier album de Guy Delisle qui va paraître chez Delcourt, si je ne m'abuse, donc ouais. Jérusalem. Voilà, ils ont fait un deal, ils ont rendu la lecture possible en ligne. Formidable, très bien, c'est une excellente idée. C'est un projet qui est cohérent par rapport à sa ligne éditoriale, sa portée et le niveau d'exigence d'une rédaction comme Le Monde. C'est parfait. Voilà. Mais ça va être quoi? Ça va être, allez, sur l'année, 3-4 albums. Bon, sur 4500, c'est pas bézef quand même, hein. Donc, on est loin d'une généralisation de ce format. On est loin d'une pratique, voilà. Concernant 8 comics pour l'anecdote, ils sont dans mon radar pour justement les fameux billets sur l'exploitation de la BD numérique, de la BD numérisée pro. Donc, attends-toi à lire l'un de leurs bilans prochainement sur mon blog.
Voilà. Ah oui, là ça m'intéresse beaucoup parce que j'étais très curieux. Vu qu'ils avaient posé ça comme vraiment une expérimentation, j'étais très curieux d'avoir les résultats de l'expérimentation.
Ben, je pense qu'il y a vraiment voilà des enseignements variés, intéressants.
Et vraiment, tu ne crois pas que l'absence de liseuses à l'heure actuelle hein, joue aussi beaucoup là-dessus? Parce que c'est vrai que moi, clairement, la BD en numérique, je suis numérisé hein, même.
Ouais.
Je serais à fond partant pour exemple, me lire un journal de Spirou. Je parle vraiment le magazine.
Ouais.
Pour me lire mes bandes dessinées américaines dessus, etc. Quitte à acheter les albums, parce que je suis un peu collectionneur derrière, si ça m'influe.
Ouais.
Je sais que j'attends Noël pour me faire offrir une tablette et je n'en lis pas à l'heure actuelle parce que je n'ai pas le support pour le faire. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a ce blocage aussi qui se fait beaucoup à ce niveau-là?
Alors, il y a plusieurs blocages. En effet, le parc de machines installées n'est pas nécessairement suffisant. C'est relatif hein, parce que je ne sais plus, ils ont... Les iPads, il y en a quand même,
ils ont
vendu 4 millions en France. Hein. Peut-être que je dis une grosse connerie, mais il me semble que j'avais ce nombre-là en tête. Ça commence à être significatif. Non, le problème, il est plus, de mon point de vue, il se situe plus sur l'offre et sur sa visibilité. C'est-à-dire que, tout simplement, quand je vais dans une librairie BD, j'ai le choix entre une BD et une BD. Quand je vais sur l'Apple Store, j'ai le choix entre une BD numérique, une application, un jeu. J'ai le choix avec je peux avoir des podcasts, je peux avoir l'accès à Internet, enfin, etc. Ma tablette, par définition, elle est multifonction et le temps imparti à la lecture d'une BD sur ma tablette, il va dépendre à la fois de l'accessibilité à une offre qui m'intéresse et qui est attractive, et également du temps que je peux lui consacrer. Pour poser la question autrement, quand est-ce que je peux lire une BD numérique sur ma tablette? La question mérite vraiment d'être posée parce qu'en réalité, tout va dépendre de ce que tu as déjà indiqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire il faut que tu aies une approche éditoriale extrêmement spécifique, par exemple avec une logique feuilletonnante, comme les autres gens. Comme Bloodsy à l'époque, comme ça ira mieux demain, l'application de dessin de presse d'AV Comics, il faut avoir une offre et une logique éditoriale qui soit régulière, avec un rendez-vous régulier, avec une pratique régulière et qui prenne en compte les usages, les modes de consommation et qui essaye pas de faire passer des vessies pour des lanternes. Ça c'est vraiment très très important, c'est-à-dire qu'ils essayent pas de forcer la lecture sur un écran en couleur rétro-éclairé d'une BD qui est pas fait pour ça. C'est aussi bête que ça. Là, je viens de lire Les Ignorants d'Étienne Davodeau chez Futuropolis. il y a une séquence où Étienne Davodeau explique parce que ça se passe dans sa, il va signer le BAT de sa précédente BD, donc Lulu femme nue. On le voit, il raconte que il est chez l'imprimeur, et il doit signer le BAT et il explique que en fonction du papier, il va travailler ses couleurs de telle ou telle manière parce que il sait que le papier qui va être utilisé absorbe les couleurs, qu'il peut y avoir une variation de ces couleurs-là parce que le gamut, c'est-à-dire l'espace colorimétrique des imprimantes offset qui vont être utilisées est limité, donc il sait que telle ou telle couleur va plutôt bien rendre ou moins bien rendre, donc il va falloir pousser sur les verts, pousser sur les rouges, pousser sur les bleus, enfin etc. blablabla. Tout ça pour dire que les auteurs de BD, ils pensent le produit final qui va être un livre en papier. Ils pensent pas nécessairement le fait que ça va être lu sur un écran. Si on prend par exemple certaines planches de Le Droit dans ses séries apocalyptiques, voilà, il a des planches qui s'étalent sur deux pages. Comment est-ce qu'on rend ça sur un écran? Sans trahir le travail de l'auteur. Enfin, il y a la relation homothétique à l'œuvre, elle est questionnée sans arrêt. Donc voilà.
Là, tu parlais des couleurs. Je pense que ouais. Les couleurs, ça reste quand même le genre de problématique que se posent vraiment les spécialistes. Je veux dire, la plupart des gens disent de la BD. Moi, l'impression que j'ai, c'est que la plupart des gens qui lisent de la BD, le rendu des couleurs sur écran ou sur papier. J'ai pas l'impression que ça les marque plus que ça, quoi.
Pose-toi la question bêtement, mais le bleu Schtroumpf, il a une valeur, il a une valeur physique, il a, c'est un bleu Pantone particulier. Enfin, il a une référence. Si sur ton écran il sort vert ou il est pas respecté, ça peut poser problème quand même. Je veux dire, il y a une question après de d'intégrité de l'œuvre, de fidélité de l'œuvre. Il y a donc. C'est même pas tant effectivement le client final qui va dire ça me plaît pas, c'est surtout que ça dépend le cahier des charges qu'on a pour le produit, mais si le cahier des charges, on va dire basiquement, il est simplement de respecter le travail des auteurs, ce qui est leur demande accessoirement, ça veut dire respecter les couleurs aussi, donc s'il y a dégradation des couleurs, mais d'ailleurs ça peut être aussi le fait tout simplement de l'écran qui n'est pas réglé. Ça c'est quelque chose qui est rédhibitoire. C'est un vrai vrai problème. Donc bon, ça peut paraître marginal, mais en même temps, je crois qu'il faut ça. Si on fait les choses bien partout, c'est bien aussi. Parce que c'est ça le problème, c'est que si on commence à être relâche en se disant oui bon moi les couleurs c'est pas grave, on va l'être sur oui bon ben finalement le dessin c'est pas grave, oui bon ben finalement la traduction c'est pas grave, et puis au final on a des produits de bas de gamme et qui vont tirer l'offre vers le bas et qui vont surtout abîmer l'image qu'on veut donner de cette créativité, de cette création. Pour faire un parallèle, quand on s'est mis à faire du manga global avec Shogun, l'une des choses qui nous a perdu, si je puis dire, c'est que les œuvres étaient très très inégales, qu'il y avait des travaux qui étaient de qualité professionnelle, qui étaient même meilleurs que bon nombre de mangas, mais il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas. Et le problème, c'est que les lecteurs français sont partis du principe que c'est pas des Japonais qui dessinent, donc c'est forcément moins bien. Donc même à qualité équivalente d'un point de vue dessin et dans un premier temps et scénario dans un deuxième temps, ils étaient beaucoup plus exigeants et beaucoup moins indulgents surtout. Donc le problème c'est que si on donne, il faut qu'on pense tout de suite à donner des bons produits aux gens. Moi je suis pas d'accord pour leur filer de la merde tout de suite quoi. Enfin désolé mais après il y a ça compte quoi.
Alors, on va parler de BD que tu as sélectionné, et on va partir sur de l'ancien, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu m'as dit que tu voulais parler des centaures de Pierre Seron. en disant que c'était une bande dessinée qui méritait une réédition, parce qu'effectivement, c'est pas trouvable. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement le pitch des Centaures ?
Alors, les Centaures, ben c'est très simple, ça raconte les aventures de deux Centaures, donc des personnages mythologiques du panthéon grec, donc Aurore et Ulysse, qui vivent des aventures, se frottent par exemple régulièrement aux dieux de l'Olympe qui sont capricieux, qui sont bêtes, qui sont stupides, qui ne font que leur faire des misères. Voilà, et il y a 4 ou 5 albums, je crois, historiquement, chez Dupuis. Donc il se trouve que moi je connais les Centaures parce que je suis un grand fan, quand j'étais enfant, c'était vraiment ma série culte, des Petits Hommes de Pierre Serron, justement.
Ouais, très bonne série.
Voilà, donc toujours chez Dupuis, qui a été créé à la fin des années 60. Pierre Serron a créé les Centaures dans les débuts des années 80, si ma mémoire est bonne. Et il a donc mené de front un moment les Centaures et les Petits Hommes. Et ça marchait pas mal d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que Dupuis, un jour, pour des questions de cohérence éditoriale et de recentrage de leur collection, parfois ils ont des idées un peu farfelues, ils ont dit aux auteurs qui menaient plusieurs séries de front, comme Pierre, ils leur ont dit, il faut vous recentrer sur la série qui marche le mieux pour être à la fois plus productif, à la fois, enfin bon, c'est des logiques qui sont un peu tristes, un peu triviales. Et donc, Pierre a dû abandonner les Centaures alors que la série rencontrait un petit succès pas du tout honteux à l'époque. Comme il n'a pas trop apprécié de se voir couper les Centaures, il les a fait intervenir dans Les Petits Hommes, tant qu'à faire.
Oui, il y a même eu un crossover vraiment à l'américaine, où Les Petits Hommes sont apparus dans Les Centaures et Les Centaures dans Les Petits Hommes.
Non, pas du tout.
Ah oui ?
Non, il a fait apparaître Les Centaures dans Les Petits Hommes, mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il a... Alors attends, parce que je vais quand même vérifier, parce que j'ai
regardé les quatrièmes de couverture des Petits Hommes, et il y en a, enfin les couvertures, et il y en avait un, des Centaures, pardon, où on voit les Petits Hommes dessus, c'est dans le tome 6, Kelvinator 3.
Oui, alors, Kelvinator 3, c'est un album particulier, c'est... Parce qu'en fait, c'est pas un album chez Dupuis. C'est le seul Centaure qu'il a pas fait chez Dupuis. C'est un Centaure qu'il a fait chez MC Productions, alias Soleil.
Ouais.
Voilà. Donc, les Centaures sont apparus dans Les Petits Hommes, dans Le Volcan d'Or, qui est le 23e, oui, je crois, de mémoire. Je regarde, je triche, hein, j'ai la liste devant les yeux. Donc, c'est ça, le numéro 24. Il a déjà 25 ans, l'album. Et en effet, il y a eu ce petit crossover, mais c'était pas chez Dupuis, voilà.
D'accord.
Donc il y a eu voilà. Ceci dit, pour l'anecdote, puisqu'on parle de Pierre Serron, il a fait un autre crossover quelques années auparavant avec une autre série de chez Dupuis dont il n'assurait pas du tout la destinée, qui est le Scramustache.
Oui, et je me souviens, je l'avais lu.
Dans un album absolument jouissif qui s'appelle le Pickpocket, il s'est mis d'accord avec pas Walt, ça c'est le fils, mais son père, ça y est, j'ai oublié le
commissaire.
Goss, absolument, ancien collaborateur de Peyo, et ils ont dit, voilà, ils se sont dit, voilà, on va commencer, on va faire chacun 20-25 pages de notre côté, de notre histoire, et au bout de 25 pages, on va se mettre le travail en commun, et là, les personnages vont arriver et on va raconter la même histoire, mais évidemment, vu d'un point de vue différent. Et c'est le premier, à ma connaissance, le premier crossover de série où les personnages vivent une même aventure par album interposé, avec des angles différents. C'est assez, assez sympa.
De toute façon, voilà. Seron est un coutumier des expériences bizarres dans ces BD.
Absolument. C'est malheureusement pas assez connu, mais c'est un auteur qui a énormément fait de l'expérimentation, de la mise en abîme, il a cassé un petit peu les formats. Non, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup son travail. Il a un style très franquinesque, hein, il s'en est jamais caché, mais en même temps, il apporte des éléments. Voilà, il a pas peur, quoi, de se poser des bonnes questions, d'aller au bout de démarches un peu esthétiques. Enfin, c'est voilà.
Je sais que sur certains derniers albums, l'impression que ça donnait, c'est que l'expérience prenait un peu le pas sur le récit quand même. Dans les derniers que moi j'ai pu voir, je me souviens plus, hein, parce que ça fait un moment que j'ai pas relu Les Petits Hommes. Mais j'avais l'impression que il se faisait plus plaisir avec l'expérience que avec son récit en lui-même, en fait. C'était l'impression. Sur les centaures, justement, il expérimentait ce genre de choses ou il restait sur quelque chose de plus classique?
Non, c'était plus des séries plus classiques, ouais, absolument. Absolument. Moi, j'ai eu la chance. Il habite à côté d'Alès, Pierre, et j'ai eu la chance d'aller le rencontrer chez lui. Donc il y a longtemps maintenant, quand même assez longtemps, et il avait dans son grenier des premières éditions des Centaures qu'il avait racheté à Dupuis justement et qui m'a vendu dédicacé. C'était juste un bonheur total.
Oh oui, j'imagine.
Voilà, et ce qui fait que j'ai tous les centaures à la maison et j'en ai donc deux ou trois qui sont dédicacés. C'est quand même pas, c'est pas, voilà, ça compte, c'est important. Et voilà, mais il a fini la série des petits hommes, hein, ça y est, il a officiellement clos la série avec un album ultime chez Clair de Lune.
Ouais.
À la fin de l'année dernière. Là.
Ah d'accord, c'est le final de la série en fait.
Ouais, c'est-à-dire qu'il dit la dernière aventure des petits hommes et en fait, bon, les petits hommes chez Dupuis, c'est terminé depuis 2007. Maintenant, Dupuis sort les intégrales. Voilà, par contre, les centaures, là, je pense qu'ils sont libres de droit ou. Voilà, parce que Soleil les a exploités un moment, mais ça date maintenant. Hein.
Oui, mais c'était 89. Voilà.
Ouais, au moins, ouais. Et je me rappelle, moi j'ai des albums, des petits hommes inédits qui n'étaient pas sortis en album, justement parus chez Soleil, les toutes premières planches par exemple, petits hommes, des petits hommes et des souris par exemple, ou des souris et des petits hommes plutôt. Enfin voilà, il y a comme ça des albums.
J'avais lu une aventure des centaures dans un album qui s'appelait Parodie.
Ah oui.
Oui, donc, mais alors là, c'était dans un autre registre.
Ah oui, mais c'est bien lui qui les a dessinés.
Oui,
hein.
C'est ça que je trouvais génial. Donc c'était Parodie, c'était des histoires courtes pornographiques.
Ouais, absolument.
La plupart du temps humoristiques, mais toujours dessinées par les auteurs des séries originales, ce qui était toujours, je trouve, assez rigolo.
Absolument.
Moi, j'ai lu ça, j'étais vraiment petit. C'était il y a quelques années maintenant.
Ouais, mais
c'était MC Productions aussi, je crois.
C'est une bonne question.
Je sais plus.
J'ai un Parodie dédicacé par plusieurs auteurs justement.
Ouais.
Dédicacé leur propre planche.
Est-ce voilà, qu'il y a un paquet hein.
Ouais, j'ai pas Dany malheureusement, mais.
Ah oui, Dany.
Les aventures d'Olivier Ramier, c'est quand même quelque chose.
Oui, c'était voilà. Bien trouvé.
Ah, c'était bon.
Tu nous as parlé aussi, on va passer un peu sur du manga, de 20th Century Boys.
Ah,
donc, ouais. C'est du méga... Enfin, c'est déjà devenu un classique, j'ai l'impression.
Ah bah, ça...
Moi, ça... je... Oui, tu disais, pardon ?
Non, je dis ça peut devenir un classique. Enfin, de toute façon, c'est un monument de la bande dessinée mondiale. Hein. C'est extraordinaire, 20th Century Boys. C'est...
Alors, moi, j'ai découvert voilà. Urasawa. Oui. C'est lui qui m'a fait re-manga, en fait. J'avais fait une pause, fin des années 90. J'avais un peu laissé tomber parce qu'il y avait que du shonen, c'était tout pareil.
Ouais.
Et je me suis remis parce que ça me fait découvrir d'autres choses en fait. On en a déjà parlé donc dans le podcast à plusieurs reprises. Est-ce que tu arriverais à nous balancer le pitch de 20th Century Boy? C'est pas forcément évident. C'est pas. Ah, là, c'est la question vache. Hein. Ouais.
Aussi le pitch, ouais, en fait il est relativement simple, c'est
au
c'est
tome
l'histoire.
1 oui, ça va.
Comment?
Au tome 1 c'est simple.
Non, en fait 20th Century Boys, ça nous raconte l'histoire d'une bande de copains d'enfance, donc ça commence dans les années 60 au Japon, qui s'éclate à se raconter des histoires de monstres, un petit peu à la Godzilla, etc., qui vont grandir plus ou moins en restant en contact, et puis qui vont être réunis par le destin quand, d'un seul coup, une espèce de gourou un peu bizarre qui se fait appeler Ami reprend leurs idées d'enfance et leur donne un tournant absolument terrifiant. C'est-à-dire, voilà, le, typiquement, ils imaginaient un robot qui écrasait la ville et lui en crée un qui écrase littéralement la ville. Et alors l'histoire s'étend sur une cinquantaine d'années au moins, avec d'incessants flashbacks où on se rend compte que des épisodes qui se passent en 1995 trouvent leur racine en 1960, ont des échos en 2015. Enfin, c'est absolument ébouriffant. C'est extraordinaire, c'est une tension permanente, c'est une maestria narrative, parce qu'il y a, peut-être une quinzaine de personnages vraiment d'importance qui se succèdent sur 22 ou 24 albums, je sais plus.
Alors, c'est un piège, c'est-à-dire qu'il y a 22 albums de 20th Century Boys, voilà. Et la conclusion s'appelle 21st Century Boys et a deux tomes.
Voilà. La conclusion d'ailleurs qui est assez décevante, je trouve, ce qui est le bémol que je mettrais sur la série. Mais bon, c'est ce bémol là mis à part, c'est un monument.
Est-ce que faut dire aussi qu'avec une série qui part autant dans tous les sens, avec des coups de théâtre non-stop, des revirements de situation, des chocs narratifs, je vois difficilement comment est-ce que à la fin on peut réussir à ne pas décevoir.
Bah, c'est-à-dire que, enfin, il réussit quand même mieux que Lost, hein, par exemple, hein, à titre de comparaison.
Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux.
Mais en l'occurrence, non, il y a certains fils qui sont, on va dire, qui sont un peu plus épais que d'autres, mais ça reste quand même du très très grand art. Bon, d'un point de vue narratif, je trouve que ce qu'il a le mieux réalisé, enfin, ce qui est, on va dire, globalement, l'œuvre qui est la plus tendue, la plus étonnante, c'est plutôt qui est sorti en France là il y a l'année dernière et ce début d'année, si je dis pas de bêtises.
Ouais, ça vient de se finir.
Donc ça, plutôt, c'est sur 8 albums. C'est absolument c'est un hommage à Astro Boy, puisque ça reprend en fait une histoire originelle d'Astro Boy mais réécrite, rescénarisée. Enfin, il en fait un thriller de science-fiction absolument énorme. Voilà, Monster, c'est aussi j'aime beaucoup beaucoup Monster.
Je trouvais que ça avait plus de tenue justement quand même 20th Century Boy, parce que la fin déçoit moins, je trouve, le fait qu'on reste dans quelque chose de très réaliste en fin de compte, rend le côté horreur beaucoup plus dur et beaucoup plus flagrant, je trouve.
Oui, et puis on voit des constantes, hein, surtout dans son travail désormais. Il y a cette, enfin moi j'ai le j'arrive à mettre la main sur la nouvelle série qu'il a lancée au Japon. Bah, il y a déjà 3 ans maintenant, mais qui s'appelle Billy Bat, qui est aussi un patchwork absolument incroyable, mélange de personnages, d'époques. Enfin, c'est complètement incroyable, qu'il faudra relire dans son entièreté, parce que c'est vraiment difficile de l'embrasser du regard et de la réflexion comme ça. Mais c'est pareil, c'est encore un monument, et il y a une constante, c'est que il est fasciné par le pouvoir d'imagination de l'enfance. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans tous ces mangas.
Ça doit être le cas dans beaucoup d'auteurs japonais, je pense à Otomo, hein, où il y a ça aussi.
Alors oui, mais enfin Otomo, là c'est vraiment que la 20th Century Boys, je veux dire la matrice de 20th Century Boys est centrée sur les délires de sale gamin dans un terrain vague il y a 40 ans quoi. Et tout ça va changer la face du monde, même pas du Japon, mais du monde.
Oui.
De la même manière, il a dans Monster, c'est des traumatismes liés à l'enfance qui font de Johan, le méchant de l'histoire, on va dire, un monstre. Et c'est donc la préservation de l'enfance, la préservation de l'imagination, la corruption que peut ressentir le personnage face à des œuvres qui ne lui sont pas destinées. C'est vraiment au cœur de Monster.
Et puis, est-ce que le héros Tenma va réussir à garder son innocence?
Oui, mais alors Tenma, c'est un autre. Tenma, c'est une émanation d'un autre point très particulier et propre à Urasawa. C'est sa passion littérale pour l'œuvre d'Osamu Tezuka, puisque Tenma, c'est le nom à la fois du père d'Astro Boy et à la fois c'est il est médecin exactement comme l'est notre ami et en Allemagne qui plus est Black Jack. Oui. Qui est un personnage très important de l'œuvre de Tezuka. Plutôt, c'est une adaptation d'une œuvre de Tezuka. Tezuka lui-même apparaît dans 20th Century Boys. Enfin voilà, il y a vraiment son œuvre est pas voilà. Et mieux que ça, le dernier donc Billy Bat qui je sais pas quand ça sortira en France, c'est une réflexion aussi sur la puissance de l'imaginaire, non pas du côté des enfants, mais du côté de l'œuvre. Et là, c'est très, très, très intéressant, c'est-à-dire, il questionne tout simplement le lecteur sur, je le fais très court, est-ce que Mickey Mouse, en l'occurrence Billy Bat, est-ce que c'est un personnage qui est bon, ou est-ce que c'est un personnage ambivalent, ou est-ce que c'est un personnage qui est mauvais ? Et surtout, est-ce qu'il n'est pas représentatif d'une évolution de la société au fil des siècles et à travers différents continents ? C'est un truc complètement ébouriffant, incroyable. Et encore une fois, on est sur la matrice de l'imagination de l'enfant, clairement. Ça, c'est... Il est vraiment obnubilé par ça. C'est depuis qu'il s'est mis, entre guillemets, à son compte, à écrire ses propres scénarios avec l'aide d'un assistant... On voit comme ça des thématiques extrêmement importantes ressortir de son œuvre. Urasawa est vraiment obnubilé par ça, trouver le point de pivot qui est constitutif de son imagination qui plonge dans l'enfance. C'est très étonnant.
Je l'avais découvert dans le magazine Kamea.
Ouais.
Avec Pineapple Army.
Ouais.
Que j'avais beaucoup aimé à l'époque et j'avais été un peu déçu de ne pas pouvoir avoir la suite.
Ouais.
Je sais même pas s'il y en a eu en fait. Il y a un tome qui était sorti chez Glénat à l'époque, mais je sais pas si ça s'est poursuivi.
Mais c'était sur scénario d'un tiers justement. C'est ça qui. Ouais. C'est vraiment ça. Urasawa, il a vraiment deux périodes. Il a une période de commande où il a fait des œuvres qui sont pas inintéressantes, hein, mais. Comme Yawara, comme Pineapple Army, comme Mr. Keaton, etc. Mais son œuvre, on va dire magistrale, qui lui fait prendre une aura, on va dire complètement différente, c'est vraiment ses œuvres personnelles. Ça, là-dessus, il n'y a pas photo, quoi.
On va parler maintenant. De René de Ludovic de Berme. Alors, René, tu as dit que c'était une BD que tu jugais un peu surévaluée. Alors, je vais en parler parce que je l'ai lu, mais que j'en ai pas parlé dans le podcast parce que Mathieu l'avait pas lu et que donc il y avait pas de débat possible. C'était donc pas drôle. Alors, René est une bande dessinée qui est une suite d'une BD qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Lucille.
Ouais.
Que je n'ai pas lu par contre. Et donc je suis tombé sur René sans avoir lu Lucille. Est-ce que tu peux résumer rapidement le début?
Non.
Même pas.
Non, ah non, c'est irrésumable.
Ouais.
C'est la plongée dans la psyché de personnages par donc Ludovic de Berm chez Futuropolis et c'est des gros pavés. Après c'est vraiment une question de goût, hein. C'est très basique ce que je dis là, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je suis assez hermétique à la bande dessinée d'auteur, quand il y a une totale déstructuration de la planche, il y a plus du tout de cadre chez De Berm, on est on est sur la planche ouverte, on est sur une illustration par page, on est dans la suggestion, on est dans l'allégorie, on est dans la et j'avoue que ça me parle très peu. Voilà. À vrai dire, je t'ai donné ce titre-là. Déjà, c'était au mois d'août.
Ouais.
Et je l'avais lu donc quelques temps auparavant, et j'en ai même pas un souvenir très précis, sauf que évidemment le trait de Ludovic de Beurre, mais est très particulier. Il rappelle un petit peu les. J'ai vu certains de ses dessins qui étaient au crayon de papier, donc ça doit pas être loin d'être du fusain ou du crayon de papier. Il a un trait qui le rappelle, qui le rapproche un petit peu de, qu'est-ce que je peux dire comme exemple, un peu de bas-relief mais baroque.
Ouais.
Il a un univers assez fantasmagorique avec des personnages disproportionnés qui ont l'impression un petit peu d'être sortis d'un tableau de Jérôme Bosch, quoi, mais crayonnés en l'occurrence. C'est pas des personnages qui sont bien propres. Enfin, il cherche pas la joliesse dans son dessin, il cherche pas l'exactitude anatomique non plus. Il est plutôt dans le freaks, quoi. Il est plutôt dans des personnages un petit peu dans des monstres ou dans des mutants ou des ou de l'hybridation de l'être humain. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça un peu. Enfin voilà, c'est dérangeant, mais c'est voulu, hein, évidemment. C'est pas.
Ouais.
Mais ça m'évoque rien, quoi. On en fait des gorges chaudes. Mais moi, ça me parle pas trop comme œuvre. Je dis pas qu'il y a rien à en dire. Je dis pas qu'il y a rien à en tirer. Hein, c'est pas du tout ça. Hein, c'est juste que moi, à titre de lecteur lambda. J'en prends connaissance, je m'y plonge, mais j'en retire pas forcément quelque chose de, ça me donnera pas forcément envie de replonger dans d'autres choses, ni de le relire d'ailleurs. Voilà, c'est.
Moi, j'avoue que j'avais eu le problème aussi, n'ayant pas lu le précédent en plus, je savais même pas que c'était une suite.
Mais c'est pas forcément le point fondamental.
C'est qu'il a fallu que j'arrive à la moitié du bouquin à peu près, et c'est un pavé de 450 pages,
oui.
pour réussir à comprendre ce que ça essayait de raconter. Et c'est vrai que j'ai été perdu très longuement dans le bouquin. Je trouvais les dessins. Justement, ce que tu disais, un peu dérangeant, enfin très bien fait, mais il y avait un côté dérangeant qui était volontaire et très réussi. Mais j'ai pas du tout réussi à m'accrocher au bouquin un peu de la même façon. Bon, allez, on va aller sur quelque chose de plus réjouissant. On va parler de Laxad.
Ouais.
Alors, ouais. Tu as offert cette BD plusieurs fois, donc Black oui. Sad, je vais résumer vite fait parce que je pense que la plupart des gens qui écoutent connaissent Black Sad.
Oui.
On suit les aventures d'un détective privé dans les années, je sais pas, c'est des années, je saurais même pas dire en fait.
Ouais, c'est des années 60 un peu fantasmé quand même, hein.
Ouais, j'aurais même dit avant, quoi, années 20-30, je sais pas pourquoi.
Ah non, ouais. plus tard.
Bon,
ouais,
ouais. Qui est un détective classique, c'est le détective noir, Alex Chandler, qui va avoir la jolie pépée qui va venir dans l'embrasure de sa porte en ombre chinoise pour lui donner une affaire en pleurant sur quelqu'un qui a disparu. Elle lui laissera son mouchoir parfumé avant de partir. J'exagère un peu, mais on est vraiment dans les clichés à ce niveau-là. Mais ça bénéficie d'une narration et d'un dessin avec des animaux anthropomorphiques superbement réussis qui font énormément penser à du Disney.
Bien sûr, c'est normal.
C'est normal. et tu as dit l'avoir offert plusieurs fois. Qu'est-ce qui fait que c'est la série que tu as tendance à offrir facilement, apparemment?
Alors, plus exactement, j'ai offert le premier tome plusieurs fois.
D'accord.
Voilà. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est un très bel objet, que la couverture du premier tome est magnifique. C'est la tête de Black Sad sur toute la couverture. Donc, en fait, en réalité, on ne voit que ses yeux, son museau avec une cigarette. L'album en lui-même donc, est fait tout en couleur directe, peint. C'est absolument à tomber par terre. John Black Sad lui-même, bon,
Il y a un travail, effectivement. On est dans un dessin qui prend ses racines, effectivement, dans la représentation animalière de Disney, puisque Guarnido a longtemps été un collaborateur extrêmement talentueux du studio francophone de Disney, qui était à Montreuil dans le temps, qui a fermé il y a en 2003, je crois, ou 2004, peut-être. Donc voilà, et donc il a fait cette série avec un ami scénariste, Juan Díaz-Canales, et Black Sad a été une totale surprise à sa sortie. Aujourd'hui, il y a 4 tomes seulement en peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans même.
Le premier est de novembre 2000.
Voilà, chaque tome est vraiment un événement. Le dernier se passait à la Nouvelle-Orléans, était vraiment très beau, pareil également. Il y avait eu une césure assez longue entre l'avant-dernier tome et celui-là, parce qu'il a fait une autre série qui n'était pas très intéressante d'ailleurs, avec des sorcières. Black Sad, c'est précisément une BD pour ceux qui connaissent pas la BD. C'est parce que c'est beau, parce que c'est à la fois une leçon de dessin, un livre d'illustration magnifique, une histoire somme toute classique, mais particulièrement réussie en termes d'ambiance et d'exécution. C'est vraiment la bande dessinée qu'on a envie de montrer, parce qu'en disant ça c'est de la belle bande dessinée. C'est du bel ouvrage, c'est quelque chose qui flatte l'œil, qui est plutôt intelligent, pour toutes ces raisons-là pour ce plaisir de l'œuvre et de l'avoir entre les mains et de le feuilleter, c'est vraiment un cadeau précieux, si je puis dire.
Une belle entrée en matière pour ceux qui on veut faire découvrir la BD.
Exactement. Dans Black Sad, je pense que c'est pour ceux qui pensent que la BD c'est que des trucs vulgaires, de la violence ou des gonzesses à poil. Voilà, là on est quand même.
Il y a des gonzesses à poil dans Black Sad.
Ouais, mais elles sont belles. Et puis alors.
Non mais je voulais dire la fourrure.
Oui. Enfin attention, ne faisons pas du racisme anti-fourrure.
Oui, effectivement. Voilà. Ils en parlent très bien dans Arctic Nation.
Arctic Nation est un. C'est probablement celui que je préfère d'ailleurs de toute la série. Mais...
Effectivement, c'est un de ceux qui a une double lecture, la double lecture la plus intéressante.
Oui, et puis il est beau, quoi. Il y a vraiment des. Moi, il y a des planches, je suis resté, mais de longues minutes à admirer ces planches-là, à me dire, mais comment il fait, quoi. C'est juste magnifique, quoi. J'ai pas d'autres adjectifs.
Maintenant, tu vas essayer de me faire découvrir quelque chose. Tu m'as parlé d'un auteur avec qui tu aimerais travailler. C'est Florent Maudou. J'ai beaucoup entendu parler de lui et de sa série Freaks Squeal. Je suis totalement passé à côté. Donc, c'est chez Ankama Édition. Il y a 4 tomes pour le moment. Ouais. C'est sorti le premier tome en 2008.
Oui.
Qu'est-ce qui pourrait me donner envie de lire Freaks Squeal? Déjà, qu'est-ce que ça raconte? Et en quoi le travail de Florent Maudou risquerait de me bluffer?
Alors, la première chose à savoir, c'est que c'est une bande dessinée qui ne se prend pas au sérieux dans le très bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est drôle, c'est enlevé, c'est dynamique, c'est jamais prétentieux. Tout le dessin, les dialogues ne sont faits que pour... magnifier l'idée de divertir le lecteur. Ça, c'est vraiment le premier point important, c'est que c'est pas une BD cérébrale, c'est pas une BD qui va discuter sur le sexe des anges. C'est une BD qui est faite pour divertir. C'est de l'entertainment dans le sens le plus noble du terme à l'américaine, c'est-à-dire vraiment un bon moment qu'on veut faire passer avec une BD. Et Florent s'y emploie avec un talent absolument incroyable. Alors, c'est pourquoi c'est incroyable? Parce que ce garçon-là, il cumule plusieurs qualités qui sont étonnantes.
c'est que d'une part, ils travaillent vite. Bon, ça, à la limite, c'est pas forcément, voilà. Sauf que quand je précise qu'ils travaillent vite, ça veut dire qu'il est donc capable de lâcher un album d'une centaine de planches tous les ans, ce qui est quand même pas mal. Quand on voit le résultat et quand on voit les planches, on se dit, mais on a même du mal à y croire.
Oui, c'est un style assez réaliste, avec du décor.
Il a un trait semi-réaliste, mais extrêmement efficace, qui est à la croisée du manga réaliste, du comics, et d'une. Et il est aussi, il se rapproche pas mal d'une, ben justement, de Guarnido ou dans un autre style d'Enrico Marini. C'est-à-dire d'un dessin qui est vraiment à la croisée des chemins. Il a un dessin qui est une hybridation et qui est le melting pot de toutes ses influences. Et au lieu, parce que c'est là que se situe son génie, au lieu d'en faire un dessin qui va rappeler énormément un tel ou un tel. Pour donner un exemple, quand Marini a commencé avec Olivier Varese il y a quelques années maintenant, on voyait bien qu'il était monstrueusement influencé par Otomo.
C'était flagrant, oui.
C'était flagrant. Quand on lit dans un autre style, quand on lit Murena, on lit les toutes premières planches, on voit que le dessinateur dont j'ai oublié le nom, Philippe Delaby, je crois, lui, il a biberonné du Bilal, mais très fort, ça, c'est très très sensible. Là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est quand on commence Freak's Quill, c'est son premier album. Il est scénariste, dessinateur, il assure tout sur la série. Il y a juste sa compagne qui a une part très importante dans l'écriture, parce que déjà c'est sa muse et c'est pas négligeable. Mais tout de suite ça fonctionne. Et tout de suite il a son style à lui, son univers. Tout de suite on peut l'identifier. C'est quand même extraordinaire de se dire voilà, il est. Et voilà, et alors il a un trait qui est juste de toute beauté, quoi. Il y a quasiment pas un trait qui est de travers. Il est consciencieux, il est précis, il a une maestria dans son dessin. Voilà, moi je suis bluffé. J'irais même mieux, quand je lis Freak's Quill la première fois. Quand je lis un nouvel album, je le lis en plusieurs fois parce que c'est tellement riche, tellement dense, ça éclate de tous les côtés qu'à un moment, faut que je dise oula, faut que j'arrête parce que j'ai ma dose, quoi. C'est vraiment incroyable. Il a un talent fou, ce garçon. Il doit avoir à peine 30 ans et il est brillant. Donc moi, je ne peux que le recommander. Alors pour la petite histoire. Parce qu'il y a une petite histoire derrière ça, c'est que moi je connais Florent donc depuis 7-8 ans maintenant, avant même qu'il se mette à faire de la BD, puisqu'il travaillait dans le monde du jeu vidéo. On s'était rencontrés, j'avais vu certains de ses travaux en illustration, parce qu'il a fait beaucoup d'illustrations qui sont juste admirables. Moi à l'époque, donc c'était en 2003-2004, je voulais faire de la BD avec lui déjà, il le savait. Mais il voulait pas parce qu'il travaillait dans le jeu vidéo, qu'il avait pas le temps, puis le format BD, l'expression BD, la narration BD, ça l'intéressait pas à cette époque-là. Et un jour, il m'a envoyé des planches crayonnées de Freak's Quill en me disant, écoute, ça c'est mon projet, si tu veux m'aider à le bonifier, tu es bien welcome on board. Et moi, j'ai lu les premières planches, et là, j'ai eu un choc, parce que je me suis rendu compte que, clairement, à part des choses mais cosmétiques, mais dérisoires, je n'avais strictement rien à lui apporter. Donc, je veux dire, là, après, c'est une question d'ego, c'est une question de lucidité. Je me suis dit, mais voilà, il est déjà... Moi, j'adorerais lui écrire des histoires. Là, c'est la sienne, il a son univers, il a ses personnages. Moi, je ne sers à rien. C'est pas que ça ne m'a pas gêné, hein. J'ai pas de problème d'ego avec ça, loin s'en faut. Mais je me suis dit, voilà, je suis très heureux de me dire, voilà, je vois l'amorce de ça, ça va cartonner, tout le monde va adorer, moi le premier. Et il a même pensé à m'y associer. J'y ai pas ma place, je lui ai dit, il a compris, il était d'accord. Et il a fait effectivement ça avec sa compagne parce que c'est son bébé, c'est son projet, et moi j'avais aucune place possible, à part vraiment voilà et voilà et c'est en plus un garçon qui est juste complètement adorable, qui fait des dédicaces à tomber par terre, qui est enfin voilà c'est un talent voilà moi je pense et que je... c'est un dieu vivant de la BD même à son âge aujourd'hui quoi.
D'accord, je viens de mettre les Freak Squill dans ma wishlist sur BD Gest. tu as su être très convaincant.
Ah non, mais c'est incroyable.
Alors par contre, tu as réussi à quand même, tu as réussi à me convaincre sans me dire de quoi ça parlait. Je sais même pas de quoi ça parle. Vite fait, est-ce que tu peux résumer l'histoire ?
Non, mais l'histoire, c'est on suit en fait un trio d'étudiants dans une école de monstres, donc de freaks. Qui a la particularité en fait de créer des méchants et non pas forcément des gentils. Et donc, ben, ils ont, il y en a un qui a l'apparence d'un loup-garou, l'autre qui est une démone avec des petites, avec des ailes de chauve-souris et des petites, comment ça s'appelle, des petites cornes sur la tête. Et puis il y en a une troisième qui est une déesse chinoise qui maîtrise. Qui a des pouvoirs magiques, enfin qui est capable d'invoquer des animaux, etc. Qui d'ailleurs est la représentation de la chérie de Florent. Il en fait pas mystère, hein, donc je fais pas une gaffe en disant. Et voilà. Et donc c'est leurs aventures dans cette école où il y a des concours contre l'école adverse, où il y a évidemment une intrigue sous-jacente, voilà, où il y a des trésors cachés sous l'école, où voilà, et il y a des scènes de combat, il y a énormément d'humour, il y a c'est complètement décalé, enfin c'est un mix de tout, ça part dans tous les sens, c'est graphiquement à tomber par terre, c'est vraiment son truc à lui quoi.
Rien que le tome 2 avec le titre Les Chevaliers qui ne font plus de nid me donne encore plus envie de me lancer dedans. C'est une très bonne référence.
Et donc ça s'appelle Freak Squill parce que c'est imprononçable et qu'il a dit c'est la première étape de mon plan anti-marketing. Voilà.
D'accord. Et donc, il s'est mis chez Ankama dans un tout jeune label en se disant alors, ça ne marchera jamais.
Non, c'est pas du tout ça. C'est que l'histoire c'est qu'il était en discussion avec plusieurs éditeurs dont Dupuis mais qu'il a proposé Freak Squill à Ankama, qu'ils ont dit banco tout de suite parce qu'ils sont pas cons, ils ont vu le potentiel, ils ont eu 100 fois raison. Parce qu'ils lui ont aussi laissé pas mal de marge de manœuvre, d'expérimentation, de possibilités, et sur le format, et sur l'intégration ou pas de couleurs dans la BD. Il a été vraiment particulièrement bien accueilli. Je pense qu'il est relativement bien payé aussi, ce qui peut aider. Mais il a un talent incroyable, ce mec. Moi je vois ça, je suis fou quoi. Je me dis voilà, c'est. Alors j'ai l'espoir juste qu'un jour, peut-être dans quelques années, je lui écrirai une histoire et qu'il la mettra, un petit peu comme Taniguchi a bossé avec Moebius un moment parce qu'ils avaient envie de se faire plaisir. J'ai pas la prétention d'être ni l'un ni l'autre, hein, entendons-nous bien, mais voilà, moi j'ai juste envie un jour, j'espère que je pourrai écrire une histoire à Florent et qu'il me la mettra en image. Voilà.
Tu pourrais peut-être faire un truc pour Body Bags.
Alors en fait moi mon problème c'est que j'ai pour le coup je suis absolument pas dans le délire de run donc
suite d'accord qui,
voilà donc et donc voilà autant je m'entends très très bien avec Florent autant run je suis pas dans son délire. Je suis pas dans son radar non plus, à vrai dire.
D'accord.
On s'est déjà rencontrés. Il n'y a pas de souci. Hein, par ailleurs, hein, mais c'est simplement que voilà, c'est pas Mutafukaz. Ça m'éclate pas plus que ça. Bon, voilà. Je suis un peu circonspect et voilà. Donc bon, Florent, il est dans ce délire-là avec Run. Il a son propre univers. Je suis beaucoup plus proche de Florent. On verra après, la vie, elle est faite d'autres expériences aussi. Hein.
On va terminer en allant sur quelque chose d'un peu moins, je dirais, mainstream.
Ouais.
Tu as dit que ta dernière découverte BD, alors tu l'as dit en août, alors tu as sans doute découvert d'autres choses entre-temps, était Marine Blandin, donc pour Fable Nautique.
Oui.
Alors... J'en ai entendu parler parce que j'écoute des émissions, je lis des critiques à gauche, à droite. Donc c'est chez Delcourt dans la collection Shampoing.
Oui.
Et en gros, c'est une histoire qui se passe sur un immense parc aquatique construit sur un ancien cimetière animalier et on voit les personnages qui évoluent, des personnages caricaturaux, bizarres. On m'a parlé d'une, dans les critiques que j'ai entendues, on m'a parlé d'une petite vieille qui vient régulièrement sur le site pour essayer de, enfin il y a des fantômes, des animaux
Oui,
morts.
c'est
Enfin, ça a l'air
ça.
très, ça a l'air très très riche et très complexe.
Mais c'est même plus qu'un centre nautique en réalité, c'est que c'est un monde en soi. Et donc les gens vivent littéralement dans cette espèce d'aquaboulevard qui est donc un peu comme une biosphère, quoi, une bulle où les gens sont prisonniers et où en fait ils ont pas assez vécu pour connaître autre chose. Donc voilà, mais c'est pareil là. C'est pour le coup, c'est pas très facile à raconter. On découvre successivement les personnages qui peuplent cet étrange endroit. Voilà, on sait pas forcément leur motivation, mais par contre, c'est plein de poésie. C'est un dessin qui s'inscrit dans la veine, évidemment, assez répandu aujourd'hui de sphères et de voilà et de ce dessin un peu qui donne l'impression d'être faussement déstructuré. On trouve ça chez les Carasquettes, on trouve ça donc chez Marine Blandin, on trouve ça vraiment dans beaucoup de séries aujourd'hui. Et en même temps, ça, parce qu'elle a un sujet qu'elle traite à fond, et à fond dans le sens même plongée à fond, puisque voilà, les fables nautiques, à un moment, il y a un personnage qui plonge au fond de la piscine et la piscine n'a pas de fond. Mais en fait, enfin, plus exactement, elle a un fond, mais qui est en entonnoir sur, je sais pas, des dizaines de mètres de profondeur. Donc on se demande jusqu'où ça peut aller, quoi. Et c'est très saisissant, ça rappelle un petit peu des cauchemars d'enfance quand justement, enfin moi je l'ai vécu, probablement beaucoup de monde aussi, on est dans une piscine et on veut essayer d'aller au fond et puis on se rend compte qu'il est inatteignable parce qu'il est à 3 mètres et qu'on n'arrive pas à plonger ou qu'on a mal à la tête ou, enfin voilà, c'est vraiment une expérience de lecture très très forte. Quand c'est sorti, moi ça m'a vraiment bien plu. J'en ai fait une critique enthousiaste et sincère sur mon blog. Voilà. Donc quand tu m'as questionné, voilà, quelqu'un de chez Delcourt m'en avait parlé en des termes élogieux. J'ai pris le temps de vérifier, de regarder. Voilà. Et en effet, ça mérite le coup d'œil. C'est pas forcément, effectivement, aujourd'hui, je te donnerai pas forcément cet exemple-là. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'y revenir, ça c'est sûr.
Ok, eh bien, nous allons pouvoir passer à la dernière partie de notre émission,
Ouais.
qui sont les questions à la con.
Allons-y.
Alors, j'avais mis la page de côté, et bien sûr, je ne la trouve plus. La voilà! Donc, l'exercice est très simple. Je vais te donner deux mots qui vont te parler ou pas. Il y a des choses complètement improbables, hein, que tu vas peut-être même pas comprendre. Tu as le droit des jokers. Tu nous dis, tu choisis un des deux mots et puis tu peux aller plus loin dans la discussion ou pas, au choix. Nous allons commencer en disant Hergé ou Franquin?
Ah, Franquin.
À moteur ou à plume?
À moteur ou à plume? À plume.
Blonde ou brune?
Brune.
Soleil ou l'association?
Ouh, alors là. C'est une bonne question. Ni l'un ni l'autre, Futuropolis.
Ouais, c'est un bon compromis. Thé ou café?
Là aussi. Alors, café, allez.
One shot ou saga?
Alors là, ouais, on peut répondre les deux. One shot et saga.
Un droit des jokers.
Non, mais c'est pas un joker en plus pour le coup. Si c'est une question de choix, là en l'occurrence, non, je pense que c'est avant tout le projet. Donc il n'y a rien de plus déplaisant. Ça, enfin pour le coup, c'est un.
J'ai même fait un billet là-dessus. Désolé, je m'auto-cite à nouveau, mais sur la question du format et des fréquences de parution. Il y a des projets que je trouve formidables, mais savoir qu'il y aura un album que tous les ans ou tous les 2 ans, je trouve que c'est une catastrophe. Voilà, donc tout simplement.
Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe?
Noir et blanc pas cher et noir et blanc pas cher ou couleur de luxe. Oh là 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 là. Ouais, mais là c'est la même réponse que précédemment, ça dépend du projet.
Ok, slip ou caleçon?
Slip ou caleçon, caleçon.
Jonah Jameson ou Jenna Jameson?
Donc là, il faut que je fasse le mec qui ne sait pas qui est Jenna Jameson, en fait.
C'est ça.
C'est pas la fille de l'autre.
on en a eu qui ont fait comme s'ils ne savaient pas qui était Jonah Jameson.
Eh ben, écoute, non, le premier, moi je veux le rédacteur en chef de Peter Parker, évidemment.
Numérique ou traditionnel?
Traditionnel. Aussi paradoxal ça puisse paraître, puisque je suis connu pour être spécialisé, m'intéresser beaucoup au numérique. Voilà.
Xbox ou Wii?
Oui, définitivement oui.
Batman ou Superman?
Batman, définitivement Batman aussi.
Trondheim ou Larsenet?
Ouh là 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 là, c'est
celle-là,
pas ça.
Celle-là est vache, celle-là est vache.
Ouais, elle est... Ouais. Trondheim ou Larsenet, ouais, ben là c'est pareil, c'est un peu en fonction des projets, quoi. Non, Trondheim quand même. Trondheim pour la puissance de travail et la capacité à explorer et à se renouveler, il est assez stupéfiant ce garçon.
Protoss ou Zerg?
Ah, alors là, je ne connais ni l'un ni l'autre. Alors.
Très bien, ça vient d'un jeu vidéo. On oublie.
Ouais.
Bière ou pastis?
Ça c'est dur. Hein. Alors là, non, bière. Enfin, aujourd'hui, bière. Il y a quelques années, probablement pastis, mais. Voilà. Mais non, aujourd'hui, bière.
Donald ou Howard the Duck?
Non, Donald. Mais Donald version Karl Barks. Hein.
Blur ou Oasis?
Orangina. non, Blur.
Atari ou Amiga?
Ni l'un ni l'autre.
Toriyama ou Otomo?
Ouh, alors là, Otomo.
Et on a fait le tour. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions, même les cons.
Bah, de rien, c'est cool.
merci d'avoir participé, c'était un plaisir. Donc, je rappelle qu'on peut te trouver sur la plateforme de blog du Monde, donc sur lecomptoirdelabd.blog.lemonde.fr. Ça fait des longues adresses quand même. Hein.
Oui, bah oui. Non, mais sinon, c'est le comptoir de la BD sur Google, ça marche aussi. Hein.
Oui, ça marche très bien.
Voilà.
Voilà, que tu as donc toujours ton livre disponible aux éditions Numérique Livre, donc État des lieux de la BD numérique, enjeux et perspectives. Mm-hmm. Qu'on te retrouve donc, je me disais bien que j'avais reconnu ta voix dans le podcast Le Monde des Séries.
Oui.
Tous les mois, donc toujours sur la
scoop,
plateforme du Monde.
Le prochain sur les seniors, voilà.
Voilà, j'en ai un de retard là qu'il va falloir que je rattrape.
Il n'est pas encore sorti. Hein. Enfin, il y en a un où je ne suis pas sur les musiques. Et je regrette parce que le sujet était super, mais j'étais pas disponible. Et le prochain sur les seniors, et on s'est bien éclaté à faire ça.
Ouais, j'imagine. Et puis je crois que j'ai un peu fait le tour. Ta bande dessinée parue commence à être difficile à trouver apparemment, parce que le premier tome est en rupture éditeur de Hansen.
Oui, mais bon, c'est une belle histoire et j'espère qu'on en pourra peut-être la réexploiter dans le futur. Je ne me suis pas encore vraiment posé la question, mais pourquoi pas, après tout. Elle mérite de continuer ou de vivre en tout cas.
Ok, bah merci encore, bonne nuit même.
Merci à toi et à ton équipe, et puis à bientôt.
À bientôt, ciao, au revoir.
Au revoir, merci.